Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
L'after continue jusqu'à minuit, heure française, jusqu'à 2h du matin, heure du Qatar. Et oui, on est là en direct avec vous comme tous les soirs. Et puis ensuite, de minuit à 1h, l'after continue également avec la Libre Antenne. Vous le savez, avec Nico Villas, Thibaut Jeungrand, qui vous permettent de venir dans le studio d'RMC jusqu'à 1h du matin. On est là tous les soirs avec, pour le moment, Lionel Charbonnier, toujours là, Kevin Diaz également, Julien Laurence qui est resté, car on va débriefer le match de l'Angleterre. On dira un mot du Pays de Galles également dans quelques minutes dans l'after. L'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Donc toujours en direct de notre studio ici à Doha, au bord de la mer au Qatar. Des invités ce soir, Wanyo Eloa est avec nous. Il était avec nous pendant une partie du match Angleterre États-Unis. Je l'ai dit, légende du RC Lens, de l'AS Monaco, mais aussi de l'AS Nancy Lorraine.
Ouais.
Sachez que Jérôme Rotten, avec son gros boulard,
ouais,
avec nous. Regarde le palmarès de Jérôme, une Coupe de la Ligue. Wanyo, champion de France.
Champion de France.
Coupe de la Ligue. Double champion de France, excuse-moi Wagnon.
Un peu de respect quand même.
Je voulais pas te vexer.
Non, pas du tout.
Et titre, attention, titre totalement nostalgique, champion du monde militaire.
Ah oui,
Coupe
du monde,
ça. Ouais. Ça existe
avec
plus.
Le patron de Joinville.
Ouais, exactement. Ouais.
Du coup, c'est avec Roger Lemaire, alors champion du monde militaire.
Comment ?
C'est avec Roger Lemaire ?
Avec Roger Lemaire.
Obligé.
Je l'adore.
Il y avait qui d'autre dans ton équipe d'ailleurs ? C'était qui dans ton équipe ? Il y avait qui d'autre ?
Tu comprenais les débriefs ? Ou les briefings ? De Roger.
Non, en fin
de
compte, moi je l'adorais parce qu'en fin de compte, il avait des consignes très simples. Donner la balle à Wagneux, courir autour de lui.
Didier Deschamps avec Mbappé, c'est à peu près ça.
C'est pareil. Il pourra. On avait Mendy.
Quel Mendy ?
Pistol, Fred Mendy qui était à Montpellier. Istiol.
Ouais, donc tu m'as dit Dorasso, il pourra.
Alicat. Woodier.
Belle équipe quand même. Hein
non. Ouais. On avait une bonne équipe.
T'avais qui dans les buts?
Exactement ma question.
On avait dans le micro, Wagneau.
On avait Debes, Raviot, mais Raviot il a pas participé au. Raviot qui est entraîneur maintenant l'équipe.
L'équipe de France, entraîneur de gardien.
Debes.
Il ressemblait déjà à Bruno Martini à cette époque-là. Raviot, il ressemblait déjà à Bruno Martini à cette époque-là.
Ah non, mais. Ah oui.
Bah, c'est sa copie conforme, hein, pour les gens qui ne connaissent pas.
Ah non, mais je te confirme. Moi, j'ai été avec Rabiot à Lens, au Racing Club de Lens.
Rabiot, parce que Rabiot, c'est pas la famille Rabiot de maintenant.
Rabiot. J'étais avec Francky et nous, on rigolait, on disait, mais comment tu peux ressembler à quelqu'un, mais. Non, mais même pas de visage, mais de mimique.
De mimique, les mimiques.
De façon de parler, de façon de marcher,
de façon
de réagir.
Les mains quand il parlait et tout, comme Bruno, Bruno.
Exactement. Donc après, bon, il fait sa carrière parce que c'est pas une surprise pour personne, parce que il avait une telle rigueur, il avait un tel sérieux, donc.
Comme Bruno.
Ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais, comme Bruno, exactement. Donc, c'est.
Bon, Wagneau, tu restes avec nous. On va parler de l'équipe de France dans quelques instants, de l'Angleterre. On a également un autre invité, les gars. Et attention, Lionel, parce que là, ça a attrapé des souvenirs. Il est déjà venu dans l'after, hein. D'ailleurs, son passage dans l'after a marqué pas mal de gens. Ils ont dit, mais c'est quoi ce personnage incroyable? Il vient d'Australie. Les gars, Dominique Garnier est avec nous. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Dominique, tu es entraîneur de gardien, diplômé. Il a entraîné longtemps les filles de l'équipe d'Australie. Donc, basé à Sydney.
Exactement, ouais.
Là, t'es là en supporter.
Bravo, Dominique.
Ah ouais, il y a pire que moi.
Alors là, t'es là en supporter, parce qu'en plus de ça, bon, t'adores l'équipe de France et tout. Et c'est ta 20e Coupe du Monde?
C'est ma 10e Coupe du Monde, là.
Ouais, ah, bravo.
Ici au Qatar, ouais.
Wow.
Ouais. J'ai commencé en 1982 en Espagne, avec cette fameuse histoire du ballon.
Ah voilà, il avait récupéré le fameux ballon de Séville 82 dans les tribunes sans le rendre. En bon gardien de but, hein, évidemment. Il l'a mis sous le maillot et au revoir.
Tu l'as gardé?
Carotté le ballon.
Non, je l'ai donné à Thierry Roland. Lors d'une émission Téléfoot, parce que Thierry parlait toujours de ce match comme le match étalon des émotions. Et Vincent Hardy m'avait invité à l'émission, et donc j'ai donné ce ballon à Thierry.
J'étais bon, les ballons en ce temps-là, c'était les tangos ou quelque chose
tango,
comme ça.
Ouais,
très bon ballon.
Ouais, pour l'anecdote, Dominique, il en est à plus de 100 marathons courus, hein, donc si vous avez envie de courir avec lui.
Voilà. Bah, en Australie, tu peux courir, il y a de l'espace.
Tu as le pédigré.
Ouais, et puis en tant que gardien à but, on n'a pas trop couru, donc il faut se rattraper.
Alors, et tu connais Lionel ?
Ouais, un petit peu, quoi. On s'est croisés quelques fois quand Coq. D'ailleurs, yo, je sais pas si t'as souhaité l'anniversaire au vieux Coq.
Non ! Ah, c'était j'ai une copine ça. Aussi.
On parle de Christophe Coquard.
Oui, Christophe Coquard, oui, avec qui j'ai joué à Évreux pendant 3 ans. Et après, on s'est retrouvés. Yo était au centre de formation avec Christophe.
Et toi, tu nous attendais sur le parking.
Oh oui, puis on a été aussi un peu, si tu te souviens, aussi à la piscine. À la piscine de... À la piscine de Nord, Auxerre Nord, où tu habitais, à Poigny.
Ouais, côté, ouais.
Ouais, ouais. Donc on a squatté.
On va vous laisser, hein, parce que là.
Fini. On arrête là.
Bon, on va parler de l'équipe de France aussi avec toi, puis tu vas nous raconter tes aventures de supporter ici. Parce que c'est pas forcément évident, hein, les logements, tout ça. On en reparlera ensemble dans quelques minutes. Mais d'abord, l'Angleterre. Ensuite, tu auras l'équipe de France. Julien, quel bilan tu fais de ce match-là ? Franchement, pas glorieux du tout pour les Anglais.
Voilà. Ouais, grosse déception. Vraiment, performance terrible, terriblement décevante aussi. J'ai une stat qui finalement résume très bien tout ça. C'est qu'Harry Kane a touché autant de ballons dans la surface adverse que Maguire.
Tu vois ?
Tout à l'heure, 3 chacun. Alors, il faudra quand même expliquer comment, avec l'un des meilleurs attaquants du monde, il peut se retrouver à toucher autant de ballons dans la surface adverse que son défenseur central. Ça montre un petit peu les limites, encore une fois, du Sylvain Ripoll anglais. Ça montre les limites de cette équipe, malgré tout. Même quand on pensait que c'était, que la machine était lancée, qu'enfin il avait enlevé la bribe, que ça allait pouvoir maintenant jouer offensivement avec du mouvement, comme on l'a vu contre l'Iran. Eh ben, pas du tout. Il est revenu aujourd'hui avec un bloc médian, sans pressing, pépère, sans intensité, sans rythme, sans rien du tout. Moi, je les trouve apathiques et ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est un tel effectif. Et on l'a déjà dit souvent, c'est une équipe qui est fantastique, avec des joueurs fantastiques. Et simplement, pour moi, même si on le disait tout à l'heure, c'est Kevin, je crois, ou toi, Bagnaud, qui disait, c'est vrai que les joueurs aussi peuvent y aller, bien sûr qu'ils peuvent y aller. Bien sûr qu'ils ont leur part de responsabilité dans cette bouillie ce soir. C'est la question. Dire. Mais quand les consignes ne sont pas là, tu peux être
mais dans
un très
l'impact,
grand joueur.
Dans les défenses, dans le jeu défensif, dans les courses et tout, là, c'était. Regarde tous les déplacements, les mecs, c'était.
Dans l'attitude. Si déjà on te dit de rester en bloc médian, de pas sortir, de pas monter trop, de pas les presser trop, bah tu le fais et je pense qu'à un moment tu t'endors toi-même.
Ouais,
et je pense que le faux rythme américain qui leur a très bien convenu a endormi les Anglais aussi.
On va leur envoyer Hervé Renard, hein. What is this?
On l'entendra tout à l'heure, Hervé Renard.
Alors il fait du bien d'avoir une causerie comme ça à la mi-temps et je peux te garantir, hein, Kevin, que c'est pas du tout ça que le Sylvain Ripoll anglais a fait.
J'y ai pensé, mais en tout cas c'est vrai que là, ce qu'a proposé la sélection anglaise, c'est très décevant. Aucun pressing, aucune volonté de faire le jeu, d'agresser son adversaire. Un adversaire qui était quand même, même s'ils ont fait un bon match, les Américains, ils étaient à la portée, bien sûr, des Anglais. C'est un football passif, c'est un football même que je nommerais même négatif.
Et je vais
te dire, Julien, pour l'instant, football is not coming home. C'est pas encore pour l'instant. Et dernière chose, je viens de voir un tweet d'un, alors c'est peut-être une satire américaine qui dit USA wins 0-0. C'est-à-dire, voilà, les États-Unis gagnent ce soir 0-0. Mais c'est vrai que c'est plutôt les Américains qui finalement ont gagné au point.
Alors, maintenant les Anglais ont 4 points, donc il faut pas qu'ils perdent contre le Pays de Galles. Ouais. Mais bon, c'est quand même un derby.
Ouais.
Toi, tu connais bien les deux pays. Tu penses que les Gallois, ils peuvent, vu ce qu'on a vu ce soir, là, tu penses que les Gallois, ils peuvent aller les taper. Pays de Galles, ils gagnent, ils sont qualifiés. Hein.
Ouais. Exactement. Donc ça va être un vrai match. C'est une vraie finale pour un vrai 16e de finale finalement, ce qui est incroyable à dire quand tu savais la position dans laquelle les Anglais étaient ce soir là.
Bah oui.
Alors qu'il aurait pu faire tourner Juju. Hein.
Surtout
match
là, donc tu vas devoir remettre.
Là,
je pense qu'il va faire quand même un ou deux changements, mais quand même, quoi, tu peux pas faire reposer tout le monde.
Exactement.
Et je pense que c'est catastrophique de se retrouver dans cette position-là, même s'ils sont meilleurs que les Gallois et je pense qu'ils vont quand même passer. Mais tu restes à la merci d'un coup de pied arrêté, d'un contre en fin de match. Toi, t'arrives pas. Je pense que les Gallois vont jouer très bas, ils vont laisser le ballon aux Anglais, mais t'arrives pas à débloquer la situation.
Ah, une victoire peut ne pas suffire au Pays de Galles.
C'est vrai.
Bon, s'ils veulent se qualifier, il faut qu'ils gagnent de toute façon. Hein.
Donc eux, ils vont jouer comme ça, mais sans prendre de risque. En tout cas au départ. Et voilà, je pense mais c'est souvent comme ça avec Southgate. Tu fais un pas en avant et tu penses que voilà, il y a quelque chose qui est vraiment en place. C'est parti. Et après, tu refais 2 pas en arrière. Et ça a été ça depuis finalement qu'il a pris cette sélection en main.
On a Teddy au 32-16 qui vit au Canada et qui voulait dire un mot des Américains. Salut Teddy.
Hello, hello. Vous m'entendez bien ?
Oui, on t'entend très bien.
Salut Teddy.
T'entends très bien.
Ouais, bonjour à tous. Merci de me prendre à l'antenne. C'est un honneur.
Pas de soucis.
Écoutez, j'ai écouté le match en regardant le match avec vous.
puis tout à l'heure, on parlait du système américain avec Wagnon qui vit sur place.
Exactement. Mais il a très, très bien dit, en fait, le soccer ici, c'est considéré vraiment comme un sport d'élite. Donc, c'est vrai que l'équipement, les licences, comme vous pouvez connaître en France, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Et parce qu'il y a beaucoup, les installations sont très très modernes également. Donc il y a pas mal d'investissements dans les installations. Donc c'est sûr et certain que bah, pour pouvoir y accéder, il faut quand même de l'argent. Et juste pour revenir sur le match, le match américain du côté américain était totalement comme planifié. Ils étaient là pour jouer le 0-0. C'est sûr et certain qu'il y a sur un malentendu, il y a un corner, ça rentrera. Et il y a pas mal de choix également qui sont critiqués par le sélectionneur, qui sont critiqués par le sélectionneur américain, dans le sens où premièrement il met pas le meilleur gardien, Matt Turner, ça fait six mois qu'il est à Arsenal, il joue pas à Arsenal, il est remplaçant, c'est vrai qu'il venait de New England, il était pas mal, mais le meilleur gardien c'est Sean Johnson qui a été considéré comme le gardien de MLS l'année dernière et qui a atteint la finale cette année avec les New York.
Après ce soir, t'es dit, tu me permettras de dire que c'est pas le problème le gardien quand même.
Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est juste pour vous dire que, par exemple, parce que vous avez parlé justement de la connexion avec Reyna, il y a certains choix justement. Par exemple, on parle de Reyna, il y a une petite polémique qui se force à pas le mettre justement parce qu'il est, il est proche de la famille Reyna. Donc il y a certains petits choix comme ça qui laissent à désirer, comme par exemple Wright qui a été sélectionné, qui joue en Turquie. Mais qui vient de découvrir la sélection et qui est passé devant d'autres attaquants qui avaient déjà plus de sélections et plus de matchs en fait internationaux, comme par exemple Sipadio qui joue à Berne. Donc il y a pas mal de petits choix.
À Berlin, et à l'Union Berlin, il joue.
C'est Balcho Vage, ouais.
Lui était convaincu d'être dans la sélection.
Ouais, bien sûr, ouais.
Et hop, il a pas été pris.
Oui, c'est normal. Ça fait deux ans qu'il est appelé régulièrement et au final pour le choix stratégique pour la Coupe du Monde, malheureusement il n'est pas retenu. Donc ça joue un petit peu, mais en effet c'était un match qui était totalement, c'est exactement comme ça qu'il le voulait. Je pense également l'Angleterre a fait le jeu.
Même à la fin, Wagnon, tu faisais la réflexion là sur le 0-0.
Je pense que le dernier ballon qu'ils ont joué, quand je sais plus qu'il disait au micro, il disait que c'était très mal joué. Non, en fin de compte c'était les consignes qu'il a reçues. L'entraîneur lui a fait signe à Pulisic de lui dire qu'il restait 30 secondes, surtout ne joue pas le coup franc. Donc après avoir vu ça, je me suis dit effectivement que ils étaient venus pour faire le match nul, tout en bousculant les Anglais qui effectivement a fait un non-match. Franchement, c'est tu disais c'est décevant, mais j'ai envie de dire ça va avoir des conséquences pour eux parce qu'en fin de compte c'est ça l'expérience, parce qu'il faut pouvoir à un moment donné permettre à certains de souffler, gérer la compétition, parce que les choses sérieuses vont arriver dans la deuxième partie de compétition. Et si tu n'es pas capable de justement de gérer un peu tout ça, parce que tu as un match qui est finalement à ta portée, parce que tu peux prendre 6 points et t'es, comme tu dis, et t'es qualifié. Donc en fin de compte, je pense qu'il y a une mauvaise gestion, un mauvais calcul en tout cas de la part. Après, je pense que les deux équipes avaient peur de perdre. Parce que
les Anglais ne peuvent pas avoir peur de perdre des Américains contre les Américains.
On est d'accord.
C'est pas possible, pas cette équipe-là.
On est d'accord. Mais
en même temps, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont bouffé leur capital physique, les Anglais. Hein, parce que franchement, ils étaient à deux à l'heure.
Non, mais ce qui est triste avec les Anglais, c'est que malheureusement, quand ils trouvent en face d'eux un adversaire qui est à peu près similaire à leur style de jeu, c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à sortir le ballon, à jouer proprement, à garder le ballon. Et c'est pour ça que j'ai regretté l'entrée tardive de
Rashford.
Non.
Grealish.
Le Fabrice Fiorez anglais.
Ouais. J'ai regretté un petit peu son.
Regarde-le.
Ah non.
Fiorez qui est passé dans un agrandisseur.
Moi, je me rappelle trop de Fiorez.
Ouais, Teddy, vas-y.
Excusez-moi, je vais juste rajouter quelque chose également. Monsieur Eloi parlait du côté anglais. Mais du côté américain, c'est un excellent résultat dans le sens où on est en préparation 2026. L'équipe est très jeune, donc il y a pas mal de renouvellement. Et cette génération-là, c'est une génération qui va arriver en 2026. Et pour la Coupe du Monde, que ce soit au Canada, aux États-Unis, au Mexique, c'est exactement ce genre de résultat qui permet de grandir. Et pour le Canada, vous allez voir que pour le deuxième match, vous allez voir que ça va être également pareil. Ça va être également dans le sens où on veut apprendre, on veut s'améliorer tactiquement pour pouvoir justement représenter le mieux
mais de toute façon, les Américains, ils ont fait un bon match aujourd'hui. Hein. Les Américains font leur match. Mais... ils jouent contre une équipe anglaise qui doit mieux faire. On l'a dit, on l'a répété. Et je changerai pas d'avis là-dessus. Par contre, du côté américain, comme dit Teddy, c'est une équipe qui est jeune. C'est une équipe qui prépare sa Coupe du Monde. C'est une équipe qui a montré de belles choses, qui s'est créé des occasions. Alors, je ne sais pas ce que donnent les expected goals en fin de match, là, Julien. Mais peut-être que ça s'est un peu rééquilibré parce que c'est vrai que les Américains, en deuxième mi-temps, ils ont un peu baissé d'ailleurs en intensité, comme ça avait été le cas lors de leur premier match face au Pays de Galles. Mais dans le jeu, c'est une équipe plutôt agréable à voir jouer. Et s'il y a une équipe décevante aujourd'hui, encore une fois, c'est les Anglais. Mais les Américains, c'est un bon point pour eux.
Ouais, c'est un bon point.
Merci Teddy.
Merci à vous.
Salut Teddy.
Bonne continuation.
Bonne soirée. Juste, on a parlé de ce match. Profitons-en pour dire un mot de l'autre match de la poule. Franchement, l'Iran, ils ont été bluffants. Ils ont largement mérité leur victoire contre le Pays de Galles. Le but en fin de match est magnifique. Bravo les Iraniens.
Ouais, et puis il y a tout un contexte autour de ce pays sur les dernières semaines, et tu voyais vraiment que c'était un espèce de soulagement. On a vu des supporters en larmes dans la tribune, forcément avec beaucoup d'émotion.
Troisième victoire en Coupe du Monde.
Et ouais, c'est une victoire.
Ça fait ambiance en plus.
Hein. C'est une victoire qui est historique, et surtout c'est une victoire qui est méritée parce que quand tu vois le nombre d'occasions, on a tous joué des matchs comme ça, où tu crois, tu te dis mais c'est pas possible aujourd'hui, on va pas réussir à marquer. Gardien expulsé, et c'est finalement à la dernière seconde qu'ils arrivent à mettre deux buts.
Et Mehdi Taremi, c'est un sacré joueur. Excuse-moi, Wanyo, mais Taremi, c'est quand même un sacré joueur. Hein. Ce qu'il fait avec Porto, ce qu'il fait avec la sélection. Mais c'est vrai que ça a bien joué dans une ambiance incroyable. Et maintenant, eux aussi, hein, comme d'ailleurs, tout le monde peut se qualifier.
Pour l'instant, c'est l'Iran qui est le deuxième. Hein.
Ouais, mais tout le monde peut se qualifier.
Il y a une stat que je veux soulever, mais je sais pas si je crois que c'est l'Iran, mais ils ont été qualifiés pour cette Coupe du Monde sans avoir perdu un match.
En qualif.
Ouais, dans les éliminatoires.
Ils sont arrivés.
Bon, après, ils jouent contre le Laos et le Vietnam. Alors, c'est peut-être plus facile que.
La zone Asie, c'est pas la plus compliquée non plus.
On est d'accord, mais je veux dire, ça a quand même le mérite de préparer les matchs, d'en gagner de la confiance. Et le premier match, je pense qu'ils ont eu beaucoup de trac, ils ont eu pris des buts
Le fait qu'ils aient protesté comme ça pendant
le contexte, je pense que ça
les a
tout ça.
Il y a eu beaucoup de gardiens.
C'était vraiment pas l'Iran, hein, c'était pas leur jeu.
Quand ils ont pris la tôle contre l'Angleterre.
Oui, bien sûr.
Le dernier match, attention, hein, parce que les Iraniens, Iran-États-Unis, ça va être. Moi, j'étais au match en 98.
Tu étais ?
J'étais à Lyon, à l'époque. Alors, petite anecdote, c'est marrant. C'est qu'à l'époque, moi, je travaillais pour le. Il y avait un petit service de presse, en fait, au comité d'organisation. J'étais jeune journaliste, quoi. Ouais. Quel âge j'avais ?
Mon âge.
24 ans.
C'est ça.
Voilà. Et en fait, pour nous remercier, ils avaient dit bah, tiens, si vous voulez voir un match. Dites-nous quel match vous voulez aller voir. Puis tous les mecs voulaient aller voir l'Argentine. Et moi, j'ai dit Iran États-Unis. Et un mec m'a dit ah bon, t'es le seul qui va aller voir ce match, toi. Bah non, parce qu'il y avait le truc géopolitique. Ouais, quoi.
C'est pas une victoire 2-0 des Iraniens, mais la Vika 2-1.
2-1, les Iraniens. Ouais. Et effectivement, et les Iraniens, ils jouaient leur vie, en fait.
Ouais. Il y a Edaï dans cette équipe, il y a Madavika aussi.
Exactement.
Mais figure-toi que
donc là, attention, ça va être super tendu.
Ah, ouais. Figure-toi, cette équipe-là, à 90%, c'est celle qu'on a battue à la Coupe du Monde militaire.
Mais non.
L'équipe de 98.
Exactement.
Parce que c'était en Iran.
Ben oui, la Coupe du Monde c'était en Italie.
Ah, et vous avez joué l'Iran en finale.
On a joué l'Iran en finale. On les a joués en poule, ils nous ont battus. On les a retrouvés en finale et on les a battus 1-0.
Ils sont restés ensemble
En fin de compte, c'était les mêmes joueurs parce qu'en fin de compte, ces joueurs-là, ils faisaient leur service militaire parce que c'est obligatoire. Donc en fin de compte, ils étaient en préparation, faire des compétitions internationales contre des équipes européennes.
Ouais, pas mal, c'est les emmener.
Un match chargé d'histoire, chargé géopolitiquement, etc. Ça va être très lourd aussi comme contexte, je pense, à gérer pour tout le monde.
Ben moi, je vais te dire, moi, je pense que l'Iran va se qualifier.
Moi, je crois aussi.
Et l'Angleterre, Pays de Galles, celui-là, difficile.
Moi, je pense que je pense que les États-Unis vont battre l'Iran.
Ça va être intéressant.
Alors, je vais te dire une chose. Les Américains, en fonction de l'adversaire, alors même si ils savent qu'ils ont besoin de gagner pour se qualifier, mais malgré tout, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une équipe jeune qui manque d'expérience. Et l'approche et le fait que c'est l'Iran, ils vont pas entamer le match comme ils l'ont entamé contre les Anglais. Alors peut-être qu'ils gagneront, mais tu verras qu'ils vont pas faire le même match.
Ouais, mais là, c'est quand même, là, ils représentent la patrie, le drapeau, hein, Wanyo.
Ouais, mais ne t'inquiète pas, l'Iran va pas les regarder jouer.
Ça, c'est sûr.
Là, c'est vraiment la guerre sous le terrain. Là, je vais te dire, c'est la vraie guerre qui va arriver là.
Voilà pour cette poule. Là, on va rentrer dans les troisièmes matchs qui vont se jouer en même temps. Hein, du coup, dans quelques jours, concernant ce Angleterre-États-Unis, Pays de Galles et Iran-États-Unis. Merci Julien.
Merci Gilbert, merci.
On va te laisser là. On va parler de l'équipe de France dans quelques instants. Comme tu étais là depuis un moment, tout de même, tu vois, c'est le coaching.
C'est le coaching. On fait tourner.
D'ailleurs. Exactement, on fait tourner. Avec Dominique, on va parler de l'équipe de France, on va parler de la vie de supporters ici à Doha. D'ailleurs, les supporters français qui vont être 5000 demain, a priori, au stade, et qui ont même prévu un cortège. Ouais.
Ah ouais.
Je vous dis tout dans quelques instants. Préparer ce match. On a la compo de départ de demain. On va en débattre ensemble. 32-16 est ouvert. L'équipe de France est au programme de l'After tout de suite.
RMC After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
L'After est là jusqu'à 1h du matin, comme tous les soirs, en direct du Qatar. Tout à l'heure, de minuit à 1h, la libre antenne. Pour l'instant, c'est l'équipe de France qui est au programme avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier, avec Wanyu Eloua qui est passé nous voir ce soir, et avec Dominique Garnier, donc entraîneur en Australie, entraîneur de gardien et supporter de l'équipe de France. Toi, tu vis la vraie expérience de supporter, Dominique. Raconte-nous en deux mots avant qu'on parle de la compo de demain. C'est-à-dire que là, tu t'es organisé, t'es venu donc d'Australie, t'as réservé à l'avance. C'est toute une logistique.
Exactement, c'est toute une logistique depuis en fait depuis deux Coupes du Monde, depuis la Russie. Avant, je partais à l'aventure. Avant, en 82, en 86, toutes ces Coupes du Monde, je partais à l'aventure. Je prenais un billet d'avion, j'avais même pas de ticket et je me débrouillais
pour avoir pour le match, pas de logement.
Pour le match, pas de logement. Je me débrouillais, c'était la vraie
aventure. La toile de tente. Comment il s'appelle ? C'est Antoine de Maximi, quoi. J'irai dormir chez vous.
Exactement. oui, c'est un peu le cas, quoi. Et puis si je pouvais dormir chez quelqu'un qui avait des longs cheveux blonds ou suivant les pays, ouais, c'était
très bien, excellent.
très bon choix. voilà. J'étais jeune. Non, maintenant c'est fini. Hein. Attends, je suis un garçon.
Donc maintenant, c'est différent.
Sérieux,
là, tu réserves à l'avance.
Ouais, non, mais le problème, c'est qu'avec les billets, on a nos visas. Et donc, on est obligé d'acheter des billets et on est obligé d'avoir des accommodations.
Ouais, c'est ça. Le logement.
Des logements. Voilà. Donc tu es obligé de faire tout ça pour avoir le visa. Donc,
et donc là, tu habites dans un conteneur.
Ah oui, j'habite dans un conteneur.
Alors raconte ça, parce que
c'est extraordinaire. Vraiment, je suis arrivé déjà. Ils nous ont fait attendre 5h30 pour avoir des clés. En plein cagnard.
Organisé par le comité d'organisation, les Qataris.
Ouais, ouais, ouais. Et donc.
Là, pour une fois, on peut pas dire que c'est la FIFA.
Ah, non, là, c'était eux. Et, mais désormais.
Donc, ils ont mis en place, qu'on comprenne bien, un village pour les supporters avec des containers, en fait, transformés en chambres.
Au milieu du désert. Au milieu de rien. Parce que j'étais courir ce matin, autour, il n'y a rien. Rien du tout. Et donc, après avoir récupéré mes clés au bout de 5 heures, j'ouvre ma clé, il y avait du monde dedans.
Ah.
Bon, je leur redonne. Ils me redonnent une autre clé.
Et c'était pas une blonde.
Non, c'est quand je suis resté. Même une brune, hein.
Tu viens de dire que t'as changé.
Non, ouais, mais là. C'est... Il m'embête, lui.
Donc tu reprends un conteneur.
Et après, donc ils m'en redonnent encore occupé.
Ah ouais, c'est bien organisé, cette histoire.
C'était pourri. Et là, j'ai dit, ça commence bien. Le Qatar, là, après. Tu sais, je voulais me faire une idée du Qatar, mais j'écoutais ma propre idée, tu vois. Mmh. Je voulais pas écouter tout ce qui se disait avant, les questions géopolitiques et tout. La Coupe du Monde, elle est là, on va en profiter, on profite du jeu, et je veux rencontrer des gens, des locaux, et comme je fais d'habitude, tu vois, et avoir ma propre idée de cette Coupe du Monde. Et là, je dis, ça partait mal. Mais maintenant, après ce petit incident, je trouve ça vraiment différent. C'est une Coupe du Monde que je suis content de vivre parce que je rencontre des gens différents, atmosphère footballistique différente, c'est complètement différent que le Mexique, des pays de football, c'est vrai, mais il n'y a pas des drapeaux du Qatar au mur, il y a des grands, le Qatar c'est l'argent, on voit des gros trucs sur les immeubles, mais pas...
Tu n'as pas l'impression qu'il y a de la propagande, c'est ce que tu veux dire?
Ouais, il y a la propagande, mais il n'y a pas le truc populaire, quoi. Moi, je ne ressens pas ce truc
populaire. Ah oui, tu veux dire l'engouement local.
Voilà, exactement, l'engouement local. Les locaux ont tous des maillots différents que le Qatar. Ils ont des maillots argentins, des maillots parce qu'ils sont supporters de Messi, ils sont supporters de Neymar, de Mbappé.
Ouais, là on parle principalement des travailleurs ici, ouais, hein, travailleurs immigrés.
Exactement, tous ces gens qui sont là, mais ils vivent leur football comme ils l'entendent. Et pourquoi choquer de ça?
Bravo,
tout à fait.
Bravo, Dominique.
Alors, on va parler de l'équipe de France ensemble, juste de préciser, donc les supporters français, alors on en avait tous les soirs, on en accueille ici dans l'after, et tout le monde est le bienvenu, notre studio est ouvert, et on en a eu deux il y a deux jours là, qui le disaient, mais on regrette quand même que la Fédé fasse pas grand chose pour nous. Avant il y avait ces fameuses cases à bleu qui là n'existent pas. Alors il y a eu des initiatives locales hein, ici de Français qui ont mis en place des guinguettes pour les supporters avec des prix sympas pour aller dîner, boire un verre. Et demain donc les supporters français s'organisent entre eux pour faire un défilé en fait, enfin une comment on appelle ça, un défilé d'un endroit fixe au stade.
Comme une parade.
Voilà, une parade, voilà, cherchez le mot.
Comme une parade pour aller d'un endroit à un autre, parce que en tant que supporter, on essaye de mettre de la couleur, on essaye de mettre de la voix, et d'aller dans les rues et de défiler comme ça, ça anime un peu la rue et ça anime
Alors Lionel et Kevin, pour tout vous dire, ils ont choisi comme point de départ un Irish pub qui est dans l'hôtel de RMC, donc il va y avoir de l'animation demain.
Bon, merci non, à eux quoi, bravo les mecs.
Non mais Gilbert, pour parler de cette Coupe du Monde, j'ai rajouté quelque chose. Pour parler de cette Coupe du Monde, moi j'ai mis longtemps à me décider à savoir si j'allais venir ou pas, avec tout ce qui se passe, les polémiques. Moi, au-delà du fait que je suis un fanat du foot et que j'adore le jeu, j'adore regarder le jeu, moi, ce que j'ai apprécié dans cette Coupe du Monde, parce qu'il faut quand même dire les points positifs, il faut dire les choses quand elles sont là, c'est que je suis sûr, c'est la seule Coupe du Monde où tu viens, tu poses ta valise, tu prends un endroit, tu poses ta valise et tu ne bouges plus. Et tu restes toute la compétition si tu veux. Je veux dire, c'est un luxe, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu. Tu imagines, moi, je suis supporter d'une équipe. Et je dois faire une ville à un autre. Admettons la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. Je joue à Miami, après je vais à Los Angeles. Il y a 5h30 de vol, il y a un décalage, il y a un jetline. Après je vais à New York. Mais non, mais c'est juste pas vivable. Donc là aujourd'hui, cette Coupe du Monde-là, tu te donnes la possibilité d'être dans un endroit. Tu vas découvrir un nouveau pays, une culture, partager avec des gens. Tu restes pendant un mois. C'est exceptionnel. Je veux dire, on n'est pas là pour parler de comment ils ont eu, pas eu. Ok, mais nous,
on en parle aussi, on en parle tous les soirs depuis 10 ans.
Wagnot, t'en as qui sont logés à l'extérieur du pays, hein, c'est ça aussi?
Oui, il y a des gens qui font les allers-retours, non,
qui font aussi des allers-retours.
Le souci qui se passe, alors moi c'est une des raisons, Wagnot, pour lesquelles j'aurais bien aimé être à cette Coupe du Monde, c'est justement la proximité entre les stades. Certes, j'avais noté que, en gros, le Qatar, c'est un peu grand comme mon département du Val-de-Marne. Donc forcément, c'est intéressant de pouvoir aller d'un stade à l'autre, même dans la même journée. Donc ça, ok, c'est positif. Mais il y a quand même un souci, c'est que, comme c'est un petit pays, justement, il y a peu d'hébergements et du coup, les prix ont flambé. C'est normal, c'est l'économie. Et du coup, il y a énormément de supporters qui n'ont pas pu aller vivre cette Coupe du Monde. Et donc là, en fait, on se retrouve exactement dans une football privé, un peu comme l'est ce dont on parlait tout à l'heure, le football américain, où c'est qu'une certaine catégorie de la population qui peut se permettre d'aller à la Coupe du Monde. Ou alors, c'est des sacrifices sur plusieurs générations.
Il faut relativiser ça.
Je vais vous donner une astuce que j'ai découvert là, justement, pendant ma première semaine. En fin de compte, quand un supporter, n'importe qui, va sur les sites marchands où ils vendent des billets, où ils vendent des... Bon, pas pour les billets, mais on parle de l'accommodation, on parle des hôtels, d'accord? Aujourd'hui, les marchands qui sont booking, tout ce que tu veux, c'est plus 30-40% du prix. Alors, évidemment, si tu vas par toi-même dans un hôtel parce que tu es sur place, alors tu disais qu'il faut réserver à l'avance. Oui, donc tu peux prendre un hôtel pour une nuit, donc t'as ton hébergement. Mais en fin de compte, ce que je dis pour les gens qui sont limités en moyens, il y avait une seule chose à faire. Alors, sans savoir tu vas trouver de la place ou pas, tu vas...
Dans un conteneur.
Non, même pas. Tu vas dans un hôtel, tu demandes, alors tu peux faire plusieurs, tu demandes, tu dis voilà, je voudrais une chambre. Et là, tu vas te rendre compte que tu vas payer un prix normal. Et je te le dis parce qu'en fin de compte, j'ai quelqu'un qui a vécu l'expérience, et on l'a fait parce que j'ai aidé cette personne à trouver cet hébergement. Et en fin de compte, si tu vas réserver, et je suis d'accord avec toi Lionel, c'est hors de prix. Je veux dire, c'est hors de prix. J'ai vu des appartements, des logements, mais c'est quand même indécent. C'est indécent.
Il y a des appartements à Doha, là, qui se louent. Bon, c'est des beaux appartements, ouais. Hein, avec de la place, qui se louent 50 000 dollars la semaine.
J'ai vu une villa, hein, 45 000 dollars par jour.
Ah ouais, d'accord. Bon, okay, donc, là, on est sur.
Qui dit mieux. On marche sous la tête. Là, je suis d'accord, personne ne va venir à cette Coupe du Monde. Mais, voilà, il y a des astuces pour trouver le moyen de venir. Et je peux vous assurer que cette Coupe du Monde, c'est agréable pour les gens qui viennent, qui mettent de côté les polémiques. Pour pouvoir justement enchaîner les matchs. Alors évidemment c'est du sport de faire quatre matchs dans la journée, c'est juste pas possible. Mais si tu veux faire deux matchs minimum, c'est très facile, comme tu dis, c'est maximum 30-40 minutes de route.
Alors ouais, l'équipe de France tout de suite, mais juste parce qu'il y a des questions qui arrivent sur Direct Studio, on me dit mais il y a quoi dans le conteneur, c'est quand même aménagé, enfin je veux dire c'est
il y a des conteneurs en fait,
tu as deux lits tout simples, tu as très dur avec une air conditionnée qui est hyper bruyante, d'ailleurs je l'éteins parce que tu peux pas dormir, et une chiotte et une douche. C'est bon, tout.
Et tu payes combien pour ça?
J'ai payé 200. Alors j'ai payé moi 200 dollars australiens par nuit. Ce qui fait
en divise par 4 en gros pour le c'est ça hein.
Non, non, tu divises par en gros par 2 comme ça c'est.
D'accord. Bon.
Donc ça fait 100 euros. Ça fait 100 euros.
100 balles la nuit.
Ouais, 100 euros.
Puis à la limite, tu vas pas pendant 100
euros la
nuit, quoi.
Mais tu peux à deux, tu vois. Parce qu'il y a deux lits, moi, ça me coûte parce que je suis tout seul. Mais il y a deux lits dedans. Donc le conteneur, il vaut 100 dollars. Donc,
50 dollars.
Ouais. Mais comme, tu sais, c'est une organisation, tu sais que tu veux aller à la Coupe du Monde. Donc moi, je mets de l'argent de côté. Dès qu'une Coupe du Monde est finie, je mets de l'argent de côté pour la prochaine. Donc. Je suis pas surpris, tu sais, financièrement, tu arrives à t'en sortir, mais
et
il
après,
faut vouloir
billets,
y aller, quoi.
Tes billets, après, tu peux aller dans les stades jusqu'à quel, jusqu'en quart, jusqu'en demi, jusqu'à la finale.
Ouais, moi, j'ai jusqu'à la finale, vrai. Et donc, par contre, les billets, faut passer. Alors, moi, je suis avec le club de supporters de Toto dans le Var. Et donc, comme ça, ça me permet d'être affilié, parce qu'il faut être affilié maintenant à un groupe de supporters. Exactement. Et puis, comme ça, on est tous ensemble, les Bleus ensemble, derrière les buts, et voilà, quoi.
Alors, demain, la compo de départ, on l'a, et il y a pas mal de changements. Et c'est ce qui va nous amener à quelques avis acérés de Kevin et Lionel, parce que, bon, évidemment, le gardien, ça change pas, Loris, mais on a pas mal de changements en défense, puisque demain, on va avoir Koundé qui va jouer à la place de Pavard. Latéral droit, défense centrale Varane ou Pamecano, et à gauche Théo Hernandez, ce qui signifie que par rapport à la compo de départ du premier match, on en a 3 sur 4 qui bougent. Voilà, après le reste, ça reste la même, Tchouaméni, Rabiot, et puis les 4 de devant, Griezmann, Dembélé, Mbappé et Giroud. Ce qu'on va faire, pour prendre le temps, petite pause, et ensuite l'avis de Lionel qui veut parler de ces changements, l'avis de Kevin qui lui veut parler de Pavard et Koundé, et puis on se projettera sur ce match de demain de l'équipe de France, pour ensuite parler longuement du Sénégal après 23h. À tout de suite dans l'After.
RMC After Foot Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Jusqu'à 1h du matin, l'After est là, comme tous les soirs, en direct de Doha avec Kevin Diaz, Lionel Charbonnier, deux invités dans notre studio ici au Qatar. Wanyo Eloa, que vous avez vu briller de mille feux avec son maillot Chopi à l'époque du Racing Club de Lens. Et oui, il y en a qui s'en souviennent. Et puis Dominique Garnier, entraîneur de gardien et de gardienne en Australie et supporter de l'équipe de France et marathonien émérite. T'as jamais fait de marathon au Qatar encore ?
L'année prochaine, au mois de janvier.
Oh, t'as déjà prévu ?
Ouais, ça y est.
Il est trop fort celui-là.
T'as gardé ton conteneur.
Ouais, je vais dire qu'il me laisse les clés.
Bon alors, l'équipe de France, les gars, Lionel, Kevin, tu gagnes le premier match, tu changes 3 joueurs sur 4 en défense. Bon, alors, vous allez me dire, il y a un blessé, ouais. Lucas Hernandez remplacé par son frangin, ok. Enfin, est-ce que ça, c'est un truc qui vous étonne ou vous trouvez ça normal ? Lionel d'abord.
Alors moi ce qui m'embête un tout petit peu, moi je serais reparti très simplement, et je vais te dire pourquoi. Je serais reparti sur la composition, tu gardes ceux qui ont gagné. Voilà, tu changes pas une équipe qui gagne, sauf un élément, pour moi, c'était Varane. Tout simplement parce que à partir du moment où tous les feux sont au vert, pour Varane, bah tu prends pas Varane pour le laisser sur le banc, même si la première charnière, Konaté ou Pamecano, ça a bien fonctionné, ok, offensivement, défensivement, il y en a pas de, on sait pas trop, mais que le fait de remettre Varane à ce moment-là, aucun souci, t'as besoin d'expérience, t'as besoin de, donc moi ça me choque pas. Mais alors après, comment tu fais pourquoi tu vas changer, par exemple Pavard, pourquoi tu l'enlèves? Honnêtement, je ne comprends pas, parce que la première sur le premier match, quand tu joues cette équipe d'Australie, tu te dis je mets Varane non pas pour qu'il déborde, mais apparemment pour avoir un équilibre défensif. Et là, tu joues une équipe supérieure, normalement de catégorie et de niveau supérieur, le Danemark, et tu enlèves Varane. Pourquoi? Pour mettre Konaté, pour mettre
Pavard, tu veux dire.
Pour mettre Koundé. Sur le flanc droit. Koundé, on sait très bien, et on l'a vu, effectivement, c'est beaucoup plus offensif. Alors, tu pars, tu joues contre une équipe qui va être dangereuse en contre. Parce que ça a tout le temps été ça, le Danemark, quand ils nous ont battu les deux dernières fois, s'ils nous ont battu en contre, ils nous ont laissé venir, ils nous ont battu en contre, ou des contres dans le dos de notre défense. Et là, tu mets Koundé, qui lui, tu vas lui demander de, bien évidemment, d'aller devant, mais tu sais très bien, et même contre l'Australie, on a été quatre fois embêtés, c'est sur les côtés. Et le problème,
surtout côté Pavard, tu remarqueras, c'est peut-être pour ça, il paye peut-être un peu les errances défensives du premier match quand même.
Écoute,
il a pas fait un grand match, Pavard.
Mais alors que
sportivement, ça peut quand même se justifier le fait de changer. Non,
moi pour moi le problème c'est pas le problème Pavard, pour moi ça va être le problème de devant, la compensation défensive et notamment ton animation que tu vas mettre entre Tchouaméni et Rabiot devant quand Koundé va prendre le côté droit. Pour moi c'est ça.
Et donc, alors, Kevin.
Et comme je trouve Pavard beaucoup plus défensif et que tu joues face à une équipe beaucoup plus offensive, personnellement, j'aurais gardé Pavard.
Kevin, t'es d'accord ?
Non, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait qu'il fallait garder Pavard, parce que moi, je voulais faire mon avis et donc je vais le développer maintenant sur le fait que je ne comprends absolument pas comment l'équipe de France va jouer avec Jules Koundé. Non pas que je ne trouve pas que c'est un bon joueur, c'est un excellent défenseur, mais pour moi, c'est un défenseur central. Alors oui, j'ai regardé, j'ai vu, il a joué 4 matchs arrière droit en championnat de Liga Española avec le FC Barcelone. Ok, pas de souci. Plus un en Ligue des Champions et un en équipe de France. Donc, on va jouer la Coupe du Monde pour être champion du monde avec un joueur qui a joué 6 matchs sur les 6 derniers mois en tant que latéral droit. Ok. Ok, bah, si les gens trouvent ça normal, je dis pourquoi pas. De l'autre côté, j'en ai aussi, pour vous dire la vérité, un peu marre du Pavard bashing. Ah, c'est bon, c'est toujours Pavard, Pavard ceci, Pavard cela. Moi, j'aimerais bien ceux qui critiquent Pavard, qui se rendent quand même compte que même si peut-être qu'il ne prolongera pas son contrat, peut-être que ce n'est pas le plus grand défenseur, il joue au FC Bayern de Munich. D'accord ? Donc, si tu joues au Bayern, qui en a mis 2, aller-retour, 2 puis 3, au FC Barcelone de Jules Koundé, notamment, pas pour les mettre en opposition, mais en tout cas, Pavard, il joue titulaire au Bayern, arrière droit. D'accord ? Pavard, il a joué 7 saisons, j'ai noté ça, je vous le retrouve dans 3 secondes, il a joué 12 matchs titulaires comme latéral droit, et il en a joué aussi plusieurs comme central. Donc, axial à un moment, droit, ouais. Comme axial droit. Mais latéral droit, il en a joué 12 des matchs avec le Bayern, qui est la meilleure équipe d'Allemagne et qui est une des meilleures équipes européennes. Donc, si il n'a pas le niveau pour jouer en équipe de France, je sais pas qui a le niveau. Peut-être qu'on peut considérer qu'on aimerait avoir un joueur plus offensif. On en avait un qui s'appelle Jonathan Clauss, mais pour certains et sûrement pour Didier Deschamps, il n'a pas le niveau pour jouer à 4 dans une défense qui va jouer une Coupe du Monde. Ok, pourquoi pas, je peux l'entendre. Il y en a un autre. Il est champion d'Europe. Il peut jouer arrière-gauche, il peut dépanner latéral droit. Il s'appelle Ferland Mendy. J'attends toujours de savoir pourquoi il n'est pas sélectionné en équipe de France. Ok, il y avait même Lucas Digne qui pouvait dépanner. Parce que le problème, c'est pas que Pavard. Le problème, c'est les latéraux. Demain, qu'est-ce qui se passe si Théo Hernandez il a le moindre souci physique ? Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a aucune solution. Et je rappelle pour
apparemment,
terminer.
Apparemment, on pourrait avoir Kamavinga qui serait capable de faire un bouche-trou.
Mais la première fois, ça à Deschamps.
Mettez en équipe de France, t'as un réservoir extraordinaire et t'es obligé de faire du bricolage. Il y a quand même une, excuse-moi l'expression, mais une couille dans le piano.
Et la dernière chose que je voulais dire, c'est.
Rappelez quand même. Dans le potage, je connaissais, mais dans le piano.
Essaye, mets-la, tu vas voir.
Je connaissais pas non plus.
Non.
Mais en tout cas, je voulais juste finir par dire dans cet avis qu'encore une fois, on avait 26 places, on en a pris que 25 et aujourd'hui on est embêté.
Ça c'est vrai, ça je suis bien d'accord avec toi, je comprends pas la logique. Wagno, t'es d'accord toi aussi sur le Pavard bashing et ce changement de défense là ou t'estimes que Deschamps a raison?
Je dirais pas que Deschamps il a raison, enfin quand, moi la seule question que je me poserais c'est quelles sont les intentions de Didier derrière. Donc aujourd'hui je ne pense pas que c'est quelque chose qui va à l'encontre de Pavard. Peut-être qu'aujourd'hui Deschamps dans sa tête, et c'est la question que tout le monde doit se poser, c'est à quoi il pense. Alors évidemment le débat, il peut avoir débat, il peut avoir des discussions, j'entends bien ce que nos deux amis disent et ils ont bien argumenté. Mais moi, je dirais, qu'est-ce que Deschamps a dans la tête? Si moi, je suis Didier Deschamps et que j'ai deux joueurs qui, pour moi, représentent à valeur égale, peu jouer susceptible dans cette équipe de France, pour moi, il n'y aura pas d'un plus fort, d'un numéro 1, d'un numéro 2. Donc là, c'est mon deuxième match. Donc je me dis, bon, je vais tenter Koundé parce que j'ai besoin de voir qu'est-ce qu'il va donner face à l'adversaire. Et après, il décidera, quand ce sera les matchs décisifs, qu'est-ce qu'a son ossature, qu'est-ce qu'a sa défense de un type. Aujourd'hui, je pense qu'il se pose des questions, je pense qu'il a envie de tester, je pense qu'il veut donner de la chance à d'autres, même s'il aurait fait entrer Coman à la place de Dembélé juste pour donner du temps de jeu à Coman. Alors aujourd'hui, on pourrait le faire dans le troisième match, mais il faut avant tout, avant de faire des débats, se mettre dans la tête du sélectionneur. Donc je pense que c'est une question qu'il faut d'abord lui poser. Et je pense pas que c'est pour punir Pavard, je pense pas que c'est à l'encontre de Pavard. Et aujourd'hui, si je regarde le premier match, j'ai pas l'impression que Pavard il a fait un mauvais match.
Et toi, tu crois que quand on pose des questions à Didier Deschamps, il répond? Excuse-moi.
Quand je dis tu lui poses la question, alors évidemment, s'il a envie de répondre, il répond. S'il a pas envie de répondre, il répond pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas lui poser la question. Ce que je veux dire, c'est faut essayer de se mettre à sa place.
Non, mais ça peut être ça, sa logique.
Exactement. Moi, c'est l'argument que j'avance.
Mais il y a quand même un autre truc qu'on peut constater, les gars. Je me tourne là vers Dominique. Konaté, il n'a pas fait un grand match. Pavard n'a pas fait un grand match contre l'Australie. Et hop, les deux, ils sortent.
Ouais.
Non, mais Konaté, il le savait.
Pas ça.
Dominique, vas-y.
Moi, j'aurais gardé Pavard parce que, on a gagné avec lui, et si jamais il voulait changer, il changeait après au
troisième match.
Mais bon,
mais aujourd'hui il a cette possibilité. Peut-être que c'était prévu depuis à l'avance que Pavard va démarrer le premier match, le deuxième match il va mettre Koundé parce qu'il estime que les deux c'est de niveau équivalent.
Mais Wagno, attention, parce que là, tu joues contre la meilleure équipe du groupe. Donc là, en fait, tu fais une tentative face à la meilleure équipe du groupe.
C'est ce qui m'embête, Wagno.
Qui n'a pas été excellente sur le premier match, mais qui t'a battu deux fois sur les quatre derniers mois.
Et ce qui m'embête aussi, c'est que par rapport à cette réflexion-là, c'est qu'on se dit que Didier Deschamps serait en train de vouloir essayer Koundé latéral droit, alors qu'il l'a eu depuis je sais pas combien de temps en équipe de France. Il a toujours joué, et notamment, 90% du temps en tant qu'axial droit. On a vu ce que ça a donné, très 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 offensive et souvent des faiblesses et des carences dans la compensation défensive parce qu'il laissait des trous derrière. Mais je pense que quand tu arrives en Coupe du Monde, tu n'es plus au moment, à l'instant où il faut faire des essais, surtout quand t'es l'équipe de France. Pour moi, les essais, si Didier Deschamps, si t'as raison, et tu peux avoir parfaitement raison, si Didier vient en Coupe du Monde pour essayer Koundé latéral droit à la place de Pavard, personnellement, moi, ça me fait peur.
Alors, je pense que, déjà, premièrement, Didier, il n'est pas seul. Je pense que leur staff a longuement réfléchi avant de faire cette sélection-là.
J'ose imaginer 10 secondes, mais non, ils avaient aussi beaucoup réfléchi avant de faire un 3-5-2 qu'ils n'avaient absolument jamais travaillé face à la Suisse et ils se sont fait éliminer. Mais ils avaient bien réfléchi.
Non, mais Après, on peut se tromper. Je veux dire, c'est comme Laurent Blanc, il a fait un coup. S'il avait réussi, on aurait dit super. Des entraîneurs, à un moment donné, ils tentent des paris, ils tentent des coups, ça passe ou ça passe pas. Guardiola, il le fait. Donc aujourd'hui, je suis pas là pour remettre en cause les choix de Deschamps. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, pour faire une liste de 26 joueurs, donc ils en ont pris 25, ils doivent réfléchir à toutes les solutions, les alternatives, évidemment, en cas de blessure.
Attends, je t'arrête. La liste de 25, là. Comme l'a dit tout à l'heure Kevin, le problème, tu prends que les défenseurs centraux. Et donc, ton 26e, ça aurait pu être un latéral.
Oui, je suis d'accord. Là on est d'accord.
Là, c'est comme, tu dis, son staff, c'est comme si c'était dit, au dessert, au café, tiens, on va se faire un délire, on va prendre que les défenseurs centraux, puis après, on verra si éventuellement, il y en a un qui peut jouer à droite, un qui peut jouer à gauche. C'est comme si c'était mis dans le caca tout seul, en fait.
Non, je pense pas qu'il s'est dit.
La liste des latéraux qu'a fait Kevin, quand même, elle est longue.
Non, mais avant, il y a eu un certain nombre de matchs.
J'ai pas parlé de Nordi Mukiele, hein, qui est aussi une option très valide.
Non, mais il y a eu un certain nombre de matchs qui ont été faits. Donc, ils ont analysé ces matchs-là. Ils ont analysé les performances. Ils ont analysé un tout avant de faire les choix. Donc, je pense pas que les choix, ils ont été faits tout à fait au hasard. OK? Donc, aujourd'hui, qu'on soit pas d'accord sur le fait que Koundé va jouer arrière droit, moi, je ne pense pas ça. Je trouve pas ça farfelu. Donc aujourd'hui, dans son optique, je pense qu'il est en train de se dire, bon, Pavard, il a joué le premier match, j'ai un deuxième match, on est d'accord, c'est peut-être contre la meilleure équipe du groupe, je vais voir ce que Koundé va donner, et après, quand on va arriver au match coup près, les huitièmes, bon, je pense que l'équipe de France, malgré tout, va se qualifier, j'ai aucun doute là-dessus, et là, évidemment, il aura une ossature, il aura sa base, donc en espérant qu'il n'y aura évidemment pas de blessure.
Ils sont dans leur logique,
Dominique. En fait.
Exactement.
Ils sont dans leur logique.
Voilà.
Ils sont dans leur bulle.
Le problème, c'est qu'on ne comprend pas leur logique.
Voilà. Ils sont dans leur logique. Ils sont dans leur bulle. Et nous, on attend de voir ce qui va se passer sur le terrain, quoi.
Bah, exactement. On va voir Koundé demain, éventuellement. Loïc est là au 32-16. Salut, Loïc.
Alors. Bonsoir, Gilbert. Attends, c'est Loïc qui est là-bas. Bonsoir, Lionel.
Salut, Loïc.
Bonsoir,
Loïc. Salut, Loïc. Loïc.
Dominique également. Et après, je suis désolé, j'oublie.
C'est Wagnon. Qui jouait avec un maillot fruité à Nancy.
Eh bien, enchanté. Eh bien, alors, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. À la base, j'avais appelé pour la réaction un petit peu sur les latéraux et notamment Pavard. J'ai écouté Lionel et c'est vrai que je suis très souvent d'accord avec Lionel, mais j'ai pas trouvé, moi, de mon côté, que Pavard avait fait un excellent match. En tout cas, je veux dire, par un très bon match. Et je suis pas forcément étonné. Je suis d'accord un petit peu avec ce que vient de dire Dominique. Pourtant, je suis souvent assez critique avec Didier Deschamps. Je pense que déjà, malheureusement, il a dû faire entre guillemets à brûle pour point, c'est-à-dire déjà avec tous les blessés, etc. Je pense qu'il avait une certaine idée. Je pense qu'il n'a pas été satisfait du match de Pavard. Je pense qu'il veut tester. Il a quelque chose en tête. Je pense qu'il voit peut-être aussi des choses à l'entraînement et des automatismes. Peut-être que nous, on ne voit pas. Alors, attention, hein, toute propension gardée, hein, j'extrapole, mais peut-être que voilà. Et je suis un peu d'accord. Je pense que il a raison. Moi, il y a des points qui m'ont pas satisfait sur le jeu de Pavard au niveau du match, alors que j'ai vu à d'autres postes et alors justement, j'ai oublié quelque chose très important. Combien de latéraux Didier Deschamps a-t-il essayé pendant tous les matchs de sélection qu'il a pu avoir et les nombreuses sélections? Il en a essayé beaucoup pour finalement revenir un petit peu à la base, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, les deux latéraux qui ont fait la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose là-dessous qui fait que il est revenu, il a essayé beaucoup. Donc je pense qu'il a pas trouvé.
C'est quand même du génie, parce que premier match, donc tu avais 4 défenseurs centraux aux 4 postes de défense. On est d'accord?
On est d'accord.
Voilà. À un moment où nous, on a fait des émissions dans l'after, Kevin, Lionel, des dizaines, pour parler du rôle des latéraux dans le foot de maintenant, qui sont autant des offensifs que des défensifs, etc. Et lui, Deschamps, non. Lui, il prend que les défenseurs centraux. Ça, c'est un truc, déjà, moi, ça,
je vais répondre à ça.
Voilà.
Mais déjà, vous oubliez déjà, il ne faut pas oublier la façon dont jouait Didier Deschamps quand il est devenu sélectionneur de l'équipe de France. C'est à la base quelqu'un qui avait des fortes valeurs défensives, qui bétonnait énormément sa défense. Mmh. Et je pense que malheureusement, il garde quand même, enfin malheureusement ou heureusement, parce que ça nous a plus ou moins réussi quand même, on est champions du monde. Je pense qu'il, dès qu'il se sent en danger, ça sera un peu comme un hérisson, ça sera son réflexe, ça sera d'essayer de bétonner défensivement.
Tout à fait d'accord avec toi.
C'est l'impression que j'ai.
Donc il sortira des quatre offensifs là pour mettre Fofana avec Rabiot et Tchouaméni.
Alors ça, tu peux t'y attendre.
Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ton argument, parce qu'en fin de compte, c'est exactement ça que j'allais dire à Gilbert. Alors, vous parlez de Koundé qui va attaquer à tous azimuts, ok?
Ouais, non, je suis pas sûr de ça, hein, moi, je pense pas. Non, mais, je pense pas que Koundé, pour le coup, ce soit un choix offensif. Au contraire, pour moi, c'est un choix encore plus défensif que Pavard.
Je vois plus défensif que Koundé.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que vous avez parlé du fait que c'était un défenseur central. Donc là, il le met à ce poste-là. Parce que quand tu as Mbappé, Dembélé sur un côté, après Coman qui peut rentrer. Je veux dire, hormis venir en soutien de temps en temps, faire les doublements, on ne te demande pas d'attaquer. Je veux dire, tu as des mecs qui sont capables devant de faire du 1 contre 1, qui sont capables d'éliminer n'importe qui. Donc la seule chose qu'ils ont besoin, ces mecs-là, c'est des couvertures. Donc si maintenant Pavard, il parle dans tous les sens, et comme on l'a vu sous le premier but, il n'est pas là, malheureusement.
Oui, pour lui, le but.
Voilà, donc je veux dire, Didier, il a besoin, comme tu as dit, je suis d'accord avec toi, d'être rassuré. Donc aujourd'hui, quand tu as un Koundé derrière, tu as des mecs qui sont en couverture, et de temps en temps, ils viennent en soutien, ça lui suffit. Parce que Dembélé, il élimine qui il veut, Mbappé, n'en parlons pas. Donc voilà, donc mettez-vous un peu dans la tête de l'entraîneur.
Là-dessus, Wagnon, je suis entièrement d'accord avec toi.
Et alors attends, j'ajoute un truc. Mais est-ce que tu te dis pas que, pardon Lionel, est-ce que tu te dis pas qu'il se dit, attends, Dembélé, Mbappé, c'est pas les mecs les plus prompts à faire le repli.
Mais
et donc du coup derrière il me faut deux mecs qui bougent pas là.
Mais exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est exactement ça mon point. Je vais dire, j'ai regardé le match de Kylian, un Dembélé un petit peu plus. Kylian, il fait pas trop les efforts défensifs. Donc à mon avis, de temps en temps on a dû le faire un petit rappel à l'ordre. Quand je l'ai vu, qu'il s'est replacé, s'est mis dans le bloc. Mais après un sprint, deux sprints. Même si les 15 premières minutes, il a fait des exploits individuels, il a essayé d'aller tout seul, et après il a simplifié son jeu, et il est devenu beaucoup plus efficace. Mais Kylian, le repli défensif.
Mais le souci, c'est pas de savoir si Didier Deschamps veut un latéral offensif ou défensif. Le souci, c'est la cohérence dans les choix. Et la cohérence dans les choix, je suis désolé, elle n'est pas présente. Moi, je peux entendre qu'il a voulu mettre Lucas Hernandez arrière-gauche parce que c'est un joueur justement défensif qui permet à Mbappé, notamment, comme tu viens de dire fort justement, Wagnon, de ne pas défendre ou de moins défendre et de rester pour les transitions et pour garder le jus pour contre-attaquer. Il n'y a pas de problème là-dessus. Derrière, il prend son frère. Mais ensuite, il ne prend pas d'autres défenseurs centraux gauchers pour suppléer un éventuel problème dans l'axe gauche. Parce qu'il nous a toujours dit, je veux un axe gauche, central, gaucher. Bon, là, il n'en a pas. Il en prend trois, Upamecano, Konaté, Disasi, trois droitiers. Ça fait 10 ans qu'il est là, 10 ans qu'il dit, je veux un gaucher. Ok, tu changes, pas de souci. Tu mets Pavard. Pavard, c'est un défenseur central. Ce n'est pas un latéral offensif. Mais c'est quelqu'un qui, par son club et par ce qu'on lui demande dans le projet de jeu de ses entraîneurs au Bayern, est quand même amené à apporter vers l'avant. Il a quand même été souvent décisif pour l'équipe de France.
Il le prend pour sa polyvalence.
Il le prend pour sa polyvalence. Pas de problème là-dessus. Mais Jules Koundé, ce n'est pas un latéral. Il n'est pas formé latéral, il peut dépanner latéral, mais ce n'est qu'un dépannage. Donc,
oui, mais Deschamps, il ne cherche pas un latéral.
Mais d'accord, tu ne peux pas me dire qu'un défenseur central droit qui a fait 4 matchs cette saison à un poste, c'est une assurance tout risque pour défendre latéral. C'est quand même pas la même façon.
Allez,
de défendre.
Le mot de la fin, Lionel, pour toi sur ce débat.
Comment ?
Je dis le mot de la fin pour
Pour moi, le souci, il est de savoir quel est le meilleur latéral actuellement. Et je rejoins Kevin là-dessus. Alors, j'attends de voir. Moi, je pense, par contre, là où on n'est pas trop d'accord, c'est que moi, je pense que Koundé, si il se sent aspiré vers l'avant, il va être beaucoup plus aspiré que Pavard. Je l'avais vu déjà quand il était axial droit, il était mais beaucoup trop, il mettait un why terrible, une merde terrible dans la défense et dans l'équilibre défensif de l'équipe de France quand il jouait avec cette défense à 3 et il était jamais à sa place parce que les compensations derrière ne sont pas faites. Pour moi, je pars du principe qu'il va être beaucoup plus offensif que Pavard et que à partir du moment où il va être là-dessus, je peux me tromper, je demande à voir demain, l'affirmer. Je peux me tromper. Peut-être que demain, il va rester et il va être beaucoup plus défensif que Pavard. Peut-être.
Mais parce qu'il change de système.
Personnellement, non, il va pas changer de système. Hein. Il va rester dans son 4-2-3-1. Hein.
Allez, on arrête là-dessus, on verra demain. Wagnon, Dominique, merci d'être venu. C'était top.
Merci
de m'avoir invité. Wagnon, tiens, je te passe un message de Bruno Satin qu'on salue. Il dit embrasse Wagnon, quel phénomène, meilleur ambianceur de l'histoire et joueur sous-estimé.
Ah, merci à lui. Salut Bruno, chanté.
Ouais, moi aussi, je salue Bruno.
Bruno, je ne sais pas si tu es là, mais si tu es là, on va se faire un petit déjeuner, un dîner à ta convenance.
Bah, tu reviens, hein, si tu veux jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, Dominique, Bruno, pareil, Wallio, le studio est ouvert.
Gilbert, on peut dire à Bruno qu'Wallio, il a une villa à 50 000 dollars la nuit, c'est ça?
Il l'a pas pris celle-là, a priori.
D'ailleurs, mon conteneur est dans son jardin, en fait.
Dominique, bah écoute, on se retrouve aussi très vite. Hein, le studio est là, ouvert. Vous venez quand vous voulez. Merci en tout cas, les gars, d'être passés. C'était super sympa.
Merci.
La deuxième heure de l'after, enfin, l'avant-dernière heure de l'after, pardon, puisqu'on va jusqu'à 1h du matin. Dans quelques instants, au programme le Sénégal, les Pays-Bas. On va revenir sur les performances de ces équipes aujourd'hui et puis tout le reste de l'actu du jour et ici à la Coupe du Monde. Au-delà du Sénégal, on va parler un peu des équipes africaines également ensemble au 32-16. On se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC Info Talk Sport.
RMC After Foot Intégrale Coupe du Monde.
Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
En France, il est 1h04 du matin ici au Qatar. Lionel Charbonnier toujours là, Kevin Diaz également. Vous le savez, tous les soirs pendant la Coupe du Monde, on vous offre des maillots de foot. C'est le petit cadeau de Noël là, même si Noël c'est pas encore tout de suite, en 20 mois. Grâce à Foot Corner, on vous offre ce soir un maillot de l'Angleterre, puisque les Anglais ont joué tout à l'heure. Si vous voulez gagner ce maillot, vous envoyez foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16. Dans l'heure qui vient, les Pays-Bas, le Sénégal, l'actu foot. On va également partir en Argentine dans quelques minutes. L'Argentine qui joue sa peau hein, demain face au Mexique. Attention, demain. Espérons que ça se passe bien pour les Argentins, mais ça peut être le dernier match de Messi avec l'Argentine. Si jamais ils se font sortir, on aura tout à l'heure Georges Quirino Chavez qui nous rejoindra. Ce qui nous permettra de dire aussi un mot de l'Équateur, équipe qui, moi, m'a beaucoup plu. Étonnant les Équatoriens, on en reparlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, on a Omar qui est là, qui est un habitué de l'after, qui est déjà venu nous voir en studio à Paris et qui est supporter du Sénégal. Omar, salut.
Salut, bonsoir à Gilbert, bonsoir à toute l'équipe de l'Afterfoot et c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois.
Pas mal de supporters sénégalais, dis donc. Hein.
Oui, il y en a énormément ici qui viennent du Sénégal et de la diaspora également.
Bon, t'es soulagé par le résultat là?
Oui, soulagé mais aussi un peu inquiet par le match de l'Équateur. On a vu une équipe de l'Équateur très soudée et très forte. C'est vrai. Et ça va être difficile le troisième et dernier match parce qu'il va falloir battre l'Équateur pour pouvoir se qualifier.
Exactement.
Et c'est pas évident.
Bon, enfin là, en tout cas, le Sénégal a montré qu'il pouvait gagner sans Sadio Mané.
Et effectivement, il y a des joueurs qui ont réussi à prendre le relais aujourd'hui. Notamment, Aliou Cissé a eu à effectuer quelques changements, comme de jeunes joueurs qui sont entrés, comme Iliman Ndiaye, qui a réussi à faire un bon match et on s'en est bien sorti. Et j'espère que d'ici mercredi, on va encore confirmer.
Bon, alors, le problème, d'ailleurs, t'es fair play, puisque t'es venu avec un maillot du Qatar. Tu viens de sortir dedans, parce que les pauvres Qataris.
Non, en fait, c'est une habitude. Je vais au stade avec le maillot du Sénégal, et après, j'échange le maillot à la fin du match avec un supporter adverse.
Ah, d'accord, tu fais
échange. Je collectionne des maillots.
Ah, d'accord, et à chaque fois, tu fais échange comme ça.
Oui, à chaque fois.
D'accord, mais Omar, t'as combien de maillots, là? T'as combien de maillots du Sénégal pour échanger?
J'en ai amené beaucoup hein, du pays.
Ah. T'as prévu jusqu'à la finale, tu veux dire?
Oui, jusqu'à la finale, hein, on est confiants.
On va parler du Qatar tout à l'heure, mais l'équipe du Sénégal, Kevin, Lionel, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Bah, c'était mieux. Après, moi, je trouve quand même, bon, offensivement, ils ont marqué, comme l'a dit, il y a des joueurs qui se sont révélés ou en tout cas qui ont fait un bon match. Il y a pas de souci là-dessus. On a retrouvé Mendy et ça c'est
ah ouais, il a fait les arrêts décisifs
justement.
Ouais.
C'est quand même bien, mais justement, comme vient de dire Lionel, il a fait quand même de sacrés arrêts. Et donc je trouve que le Sénégal, face à cette équipe du Qatar qui, avec tout le respect qu'on lui doit, est quand même une équipe faible, ils ont concédé trop d'occasions. Donc attention face à l'Équateur, qui est une équipe, et je suis d'accord avec Gilbert, qui a secoué les Pays-Bas et qui est une équipe qui, pour moi, est favorite face au Sénégal pour atteindre les huitièmes de finale.
Alors attention, parce que Valencia s'est blessé.
C'est vrai.
Donc, bon, est-ce qu'il va pouvoir jouer contre le Sénégal? S'il joue pas, c'est.
Ouais, mais ça rentre dedans quand même. Hein. Bon,
espérons pour lui que ce soit OK, parce que c'est sans doute le meilleur équatorien. Lionel, tu dis quoi, toi?
Bon, la même chose que Kevin et Comar. Omar, je voulais lui poser la question, parce que bon, il était, bien sûr, t'es content du résultat, tout le monde est content de ce résultat 3-1, tout ça, mais tu as peur jusqu'au bout, et quand ton meilleur joueur, quand même, enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est ton gardien de but, et que tu joues le Qatar, tu peux quand même avoir des petits frissons pour le prochain match contre l'Équateur, comme tu le disais, Omar. Oui, le 3-1, pas de souci. Mais en face, alors je trouve que le Qatar c'était quand même mieux, parce qu'ils sont passés complètement à travers de leur premier match d'ouverture dans un contexte qu'ils ne maîtrisent pas, manque d'expérience et tout ça, où l'émotionnel a pris le dessus. Là aujourd'hui c'était nettement mieux, il y a pas de souci, mais quand même ça reste quand même que le Qatar. Et moi j'ai été, s'il y a du mieux du côté du Sénégal, je garde quand même en mémoire que ton meilleur joueur face au Qatar, c'est le gardien de but, et ça me fait un petit peu peur quand tu dois aller à la veille de rencontrer l'Équateur.
Mais moi, ça me soulage de retrouver enfin Edouard Mendy, qui a raté son premier match, mais là, il s'est retrouvé, il a fait de très bons arrêts. Mais moi, je retiens surtout que quand on jouait, il est vrai, face à une équipe un peu faible du Qatar, Aliou Cissé a changé son système de jeu avec deux attaquants de pointe, avec un 4-4-2 qui, il y a longtemps que le Sénégal n'a pas joué sur cette formation de 4-4-2. Et je pense que contre l'Équateur, il va revenir à son traditionnel 4-3-3 en renforçant le milieu de terrain et en faisant aussi jouer des joueurs qui peuvent tenir le ballon. Parce que la difficulté que nous avons eue aujourd'hui, c'est que les ballons parvenaient difficilement aux attaquants.
Surtout
il y
dans
avait
le milieu,
comme ouais. une oui, comme une cassure sur le, entre les milieux de terrain et les attaquants. Donc ça c'est un peu rectifié quand il a fait rentrer un milieu de terrain supplémentaire. Donc je pense que mardi prochain, lors du match contre l'Équateur, il va jouer avec un 4-4-3 en faisant aussi rentrer des joueurs.
Dis-moi, Didier Diou, il est vraiment meilleur que Bamba Dieng? Bon, moi j'aime bien Bamba Dieng, hein, mais à chaque fois je l'ai vu encore. Enfin, les rentrées qu'il a fait avec le club, il y en avait très peu, mais à chaque fois il se passait un truc.
Bon, Aliou Cissé est un entraîneur qui tient beaucoup à ses joueurs, et notamment Famara Diédiou, parce qu'il fait beaucoup de tâches défensives. Et il est vrai qu'à chaque fois aussi en équipe nationale, il déçoit très rarement. Par contre, même si Bamba Dieng a marqué aujourd'hui, parfois il rate aussi énormément d'occasions.
Et
ça peut être un problème par rapport à certains matchs fermés.
Pour le coup, Gilbert, t'as été dur avec certains jeunes attaquants de l'OM, mais je te trouve particulièrement gentil.
Excuse-moi, Bamba Dieng, c'est largement au-dessus de La Fuente ou Luis Suarez, hein.
Ouais, ou Luis Enrique.
Ou Luis Enrique, bah oui. Enfin, pour moi.
Pour moi, je te dis franchement, c'est pas beaucoup au-dessus. Mais bon, on va voir. C'est un joueur qui a du talent et qui a encore une marge de progression qui est énorme. Hein. Faut pas oublier qu'il est arrivé, qu'il a débuté avec la Nationale 2, etc. Mais bon. Après cette équipe du Sénégal, moi je le dis, je le répète, hein, si je devais parier sur une équipe, malheureusement pour toi Omar, je parierais plutôt sur l'Équateur. Mais on va voir. On va voir.
Mais le Sénégal est toujours beaucoup plus fort en position d'outsider, je le rappelle. Et je suis sûr et certain que mardi prochain on va gagner, on va se qualifier.
C'est bien, faut être convaincu.
Voilà.
Bon, et refaire le coup de 2002, parce que rappelez-vous quand même que le Sénégal en 2002 sort brillamment de la poule de l'équipe de France. On salue Franck Leboeuf et Manu Petit qui s'étaient bien foirés sur le but sénégalais au match d'ouverture.
Oui, mais Manu Petit, il n'a pas eu de chance, Manu Petit.
Bon, tu te souviens, très bien, va sur YouTube, regarde l'action.
Je l'ai revu le but la semaine dernière.
Nous, alors, si on est fort, on a pris comme consultants les deux mecs qui étaient responsables sur le but.
Et tu croyais que j'étais dans les buts, non?
Non, on savait que c'était pas toi.
Mais bon, il faut dire qu'en temps, on a enfin gagné la Coupe d'Afrique des Nations, ce trophée qui nous fuyait depuis presque une cinquantaine d'années. Et donc, ça nous donne une plus grande assurance, plus grande sérénité dans l'approche des matchs.
Mais alors, tiens, on va prendre Babacar au 32-16 qui est là, qui lui aussi est un habitué de l'after, supporter du Sénégal. Salut Babacar.
Hey, salut Jolbert, salut les gars.
Salut Babacar.
T'es d'accord avec ce qu'on a dit pour l'instant là?
Ouais, ben avant tout, dédicace à Sadio Mané, le meilleur footballeur de l'histoire du Sénégal. Mais il n'est pas là, le nouveau naturalisé Qatari, là?
C'est qui ça?
Ah bah si, deux dernières minutes.
Ah, non, mais c'est Daniel, il parle de Daniel.
Ah,
mais Daniel, il a droit quand même à un jour de repos, tu vois. Là, il est avec l'Émir.
Alors,
il allait récupérer son passeport.
Ah ok. Ah, avec sa mallette. Avec sa mallette.
Ouais, la mallette aussi, il faut pas l'oublier. Hein. Mais alors, Gilbert, Omar, Moudemé, j'espère que tu vas bien.
Oui, Babacar, ça va, Mangi Diamo, ça va,
Alhamdulillah. Eh, Gilbert, si tu permets, moi j'avais des trois petits points, mais vous avez quasiment
développé.
Moi, le premier, c'est qu'il faut tout simplement que Aliou, comment dire, se fasse violence et titularise dans des petits jeunes là, soit Illiman Ndiaye ou Pamatar Sarr. Parce que l'autre point, c'était, comme l'a dit Omar, le grand retour d'Edouard Mendy. Et le troisième, la finale contre l'Équateur, quoi, voilà. Pourquoi Illiman Ndiaye? Parce que moi, je trouve que ce petit jeune-là, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, je sais pas, peut-être Kevin, t'as dû le remarquer, c'est qu'il fait tous ses contrôles vers l'avant. Ah, bon, le premier, il fait ses contrôles vers l'avant. Et j'adore la faculté qu'il a à attaquer, notamment les demi-espaces, là. Il les attaque très bien. Je pense, j'ai plus confiance en lui, par exemple, que Pamatar, parce que Pamatar, même s'il est à Tottenham, il joue pas. Alors que l'autre, même si c'est un championship, ben un championship en termes notamment de d'intensité, ça envoie quoi. Donc déjà, je pense qu'il est habitué. Moi, je veux absolument qu'Aliou fasse jouer un des jeunes parce que tout simplement, ce qui nous manque fondamentalement, c'est la un peu de créativité dans les 30-35 derniers mètres. Et puis il y a un autre aspect, c'est que moi j'aimerais carrément qu'il fasse sortir Diatta. Crépin Diatta, il faut qu'il sorte de l'équipe parce que je trouve que dans son jeu
il est très critiqué, Crépin Diatta, par les supporters sénégalais.
Il est également très critiqué, le pauvre, par les supporters monégasques, donc
Moi, sérieusement, moi, je trouve qu'il manque de personnalité dans son jeu. Il est souvent dans une sorte d'entre-deux. Des fois, on ne sait pas s'il veut frapper au but ou bien s'il veut passer. Il est tout le temps à hésiter. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, Aliou a beaucoup confiance en lui. Mais là, à un moment donné, il faut qu'il fasse un tour sur le banc pour peut-être se ressaisir. Et puis, demander aussi à mes compatriotes d'arrêter d'avoir la mémoire très courte. C'est par rapport à Edouard Mendy. Moi, malgré la bourde de la semaine dernière, j'ai pas voulu le critiquer. Tous les gardiens font des bourdes. Il est dans une passe difficile. Au contraire, on devrait plutôt être solidaire, l'encourager, être derrière lui. Mais quand je vois, après un seul match, des Sénégalais demander à ceux qui sortent du 11, je trouve ça, c'est un truc de malade. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le meilleur gardien sénégalais. Tous les gardiens font des erreurs. Maintenant, l'Équateur, comme l'a dit Kevin, pour l'instant, il y en a qui disent, ouais, comme l'a dit Van Gaal, comme dirait Kevin, a dit que l'Équateur est plus fort que le Sénégal. Ben, on en saura quelque chose mardi, on verra. Moi, je vous ai dit une chose. Gilbert, je ne suis pas encore à Doha, attendez-moi pour la demi. Je serai là pour la demi. Ah oui, mais
là, on est au-delà de la confiance, là.
Mais les gars, Babacar, déjà, je voudrais juste te répondre. Je ne sais pas, hein, je suis pas devin, mais je pense qu'Aliou Cissé va jouer la sécurité. Hein,
c'est le point commun entre Babacar et Emmanuel Macron. Ils ne viennent que pour la demi-finale.
Voilà, c'est ça.
C'est exactement ça.
Écoute, mais bon, par contre,
vas-y, Kevin.
Juste, je te disais, tu me parlais de Sarr parce que tu voudrais voir Ndiaye, etc. Moi, je pense que quand même, il va jouer la sécurité avec des joueurs d'expérience. Il va pas lancer les jeunes dans le troisième match. Peut-être que tu as raison.
Décisif, hein, en plus.
Je pense qu'il va pas prendre des risques. C'est pas le genre d'entraîneur. Hein. C'est plus le style Didier Deschamps, Fernando Santos et notre ami Gareth Southgate. Mais donc je pense pas qu'il va prendre les risques que tu voudrais.
Il y a quand même un truc que les Équatoriens n'ont pas, c'est la dimension physique des Sénégalais. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ils sont quand même physiques, justement. On en parlera tout à l'heure.
Je vois plutôt des joueurs techniques et vifs que des joueurs physiques.
Ils sont puissants.
Tu sais, Kevin, à mon avis, il n'a pas fondamentalement besoin de changer le milieu de terrain. Mais c'est juste que devant, il faut qu'il fasse sortir Crépin pour mettre Illiman Ndiaye. Et même
Omar, t'es d'accord avec ça, toi?
Oui, je suis parfaitement d'accord.
Attends, Babacar, laisse un peu Omar parler.
Depuis sa blessure, Crépin n'a pas encore retrouvé totalement son niveau, et je pense qu'Aliou Cissé lui a assez donné sa chance. Depuis les deux premiers matchs, il n'a pas fait grand-chose. Il récupère le ballon, il retourne en arrière. Je pense qu'on a besoin de joueurs créateurs et qui vont de l'avant. Et je pense qu'Illiman Ndiaye fera l'affaire.
Le Sénégal sauve un peu l'honneur de l'Afrique, là. Parce que les matchs de la première journée des équipes africaines, c'était la cata, quand même. Avant les buts du Ghana... Zéro but marqué, Maroc, Cameroun, Sénégal,
Tunisie.
Tunisie, 0. Franchement...
Moi, sérieusement, moi, Gilbert, par rapport à ça, moi, je te dis sérieusement, je ne le dis pas parce que je suis sénégalais, hein, mais je pense que pas mal d'équipes africaines ont trop respecté leurs adversaires. Nous, à la limite, la Hollande, on les a joués les yeux dans les yeux. Même si certains vont nous dire que ouais, la Hollande méritait de gagner, mais je pense que fondamentalement, c'est pas un match qu'on méritait de perdre. Bon,
le Cameroun a eu les occasions, mais n'a pas marqué.
Absolument.
Le Maroc a fait un match très moyen contre la Croatie.
Ouais, c'est la Croatie quand même. Hein.
Ouais, mais la Croatie était moyenne. J'étais au match, Kevin. C'est un match très décevant des deux côtés. Okay. Des deux côtés. La Tunisie, bon, ils auraient pu marquer aussi la Tunisie. Ils ont eu quelques occasions.
La Tunisie, enfin, c'était pas mal. La Tunisie, c'était pas mal.
Mais c'est pas et très. On va dire que ouais, c'était pas quand voilà, tu défends enfin le foot africain et tout. Bah non, pas trop non.
Après, comme j'ai dit, à un moment donné, moi j'ai pour habitude de dire à un moment donné, un joueur peut être beaucoup plus talentueux que toi, tout ce que l'on veut, mais à un moment donné, c'est un truc de gomme quoi, sur le terrain. Quand on voit sur le plan de l'intensité ce qu'envoie une équipe comme le Japon, qui
regardez ce qu'a fait le Canada par exemple.
C'est ça.
C'est une équipe africaine pourrait le faire.
Il faut faire fi des cartes d'identité quoi. À un moment donné, c'est une histoire d'hommes sur le terrain. Il faut aller chasser. Moi, l'Équateur vraiment c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Mais moi je vous dis, on va voir, on va aller les chercher. Eh ben, dans tous les cas, nous, on est obligé de gagner. Si on ne gagne pas, on sort pas. J'espère vraiment que, à l'occasion de la deuxième journée, là, les équipes africaines vont vraiment se ressaisir et puis y aller. Parce qu'il faut jouer sa chance à fond. Okay. C'est pour ça qu'hier, ça m'a fait mal pour le Ghana. Parce que le Ghana, le peu qu'ils ont essayé, notamment en deuxième période, ils ont mis en difficulté, le Portugal, hein. Le peu quand ils ont accepté de sortir, de défier les défenseurs, ils ont été en difficulté. À un moment donné, il faut y aller, quoi.
Babacar, merci beaucoup.
Plaisir, les gars.
Et on se rappelle.
Salut Babacar.
Salut Babacar.
Salut Babacar.
Et dis-moi, les supporters sénégalais, vous êtes organisés en bande, là, ou c'est un peu chacun dans son coin? Comment ça se passe?
Non, il y en a qui sont venus du pays, notamment des comités de supporters comme le 12e Gaïndé ou Alain Kaza et Aïssé Le Bougui, mais il y en a d'autres qui sont venus.
Il y a des sponsors ou la Fédé qui aide un peu ou pas trop?
La Fédé, le ministère des Sports, mais il y en a aussi qui sont venus de leurs propres moyens pour appuyer et soutenir l'équipe nationale.
D'accord. Et il y a une communauté sénégalaise au Qatar ou pas trop?
Si, il y en a une centaine de Sénégalais qui viennent aussi à chaque match appuyer l'équipe nationale. Je pense qu'on est un millier de Sénégalais là.
Mais c'est quand même pas mal. Je veux dire, faut avoir les moyens quand même pour venir ici, donc faut.
Oui, mais c'est une question d'organisation et de l'appui de l'État du Sénégal aussi, qui a convoyé presque plus de 300 à 400 supporters pour venir.
Ça, c'est une habitude en Afrique, hein. Aussi pour les CAN, souvent c'est le cas. Parce que en Afrique, on n'a pas forcément les moyens de prendre en charge le voyage. Mais je trouve ça très bien que ça se passe comme ça. Oui. Sinon, des fois, tu te retrouverais avec personne, quoi.
Effectivement, surtout que si on gagne, c'est le bonheur au pays. Donc, l'État est obligé d'y mettre les moyens. Et nous saluons la décision de l'État d'appuyer les supporters. Mais également à tous les supporters qui sont venus partout dans le monde pour soutenir leur équipe. Surtout après la victoire à la CAN. Donc, je dis bravo.
Dis-moi, j'ai vu des vidéos qui circulaient au Sénégal aujourd'hui, là, parce qu'on est vendredi, donc Sénégal, pays musulman, bien sûr. Tu avais la prière du vendredi, et ça correspondait au début du match. Donc tu voyais la sortie des mosquées, les gens qui couraient à 4000 à l'heure pour rentrer chez eux. Tu vois les vidéos, c'est très drôle. Tu as les gens qui courent dans tous les sens, et hop, pour pas rater le début du match, évidemment. Donc bravo au Sénégal qui a gagné. Rien de rajouter sur ce match, les gars. Ah, c'est quand même un mot du Qatar, parce que. Bon, c'est un peu dommage pour le pays organisateur, mais c'est quand même un peu la honte. Ouais. Jamais un pays organisateur n'avait été aussi mauvais, en fait.
Moi, le niveau du Qatar, quand même...
Je ne dis pas ça du niveau de jeu, je parle de la mathématique, c'est-à-dire deux matchs, deux défaites, éliminés.
Oui, surtout, mais moi, j'ai rarement vu une équipe d'un pays organisateur aussi faible. Le Qatar, je crois, a eu plus de 10 ans pour préparer une équipe, et c'est quand même rare de voir une équipe aussi mal préparée. Et c'est triste pour ce pays.
Non, mais c'est surtout, juste un mot quand même, Lionel, parce qu'on parle souvent de stratégie sportive. Qatar, ils ont fait le choix, ce qu'ils auraient pu faire comme ils ont fait au handball, c'est-à-dire naturaliser 11 gars. Voilà.
Ouais, mais enfin bon, là-dessus...
Ils ont fait le choix de ne pas le faire.
Tant déjà, mieux. C'est bien.
Ils auraient pu aussi faire le choix de faire venir un entraîneur tu vois, un nom en, un peu en dernière minute, voilà. Ils ont pris un gars qui bosse au Qatar depuis 10 ans en espagnol, qui a eu les équipes de jeunes. En gros, ils ont fait une politique un peu
bien,
long.
Qui connaît bien ses.
Oui, mais regarde, mais le problème, en fait, le problème, c'est que tout ça, ça part d'un, on va dire, d'un bon sentiment et d'une stratégie sportive pensée. Et comment dirais-je.
Bah, par contre, moi, je la reproche, la stratégie sportive, je
pense. Mais sauf qu'au final, tout ça, pourquoi? Ça a foiré en fait.
Ouais. Tu mais la stratégie. Alors
ils sont pas là pour ça. Ils s'en foutent.
Ils sont ils s'en foutent pas.
Ils sont pas là pour aller en huitième de finale de la Coupe du Monde.
Non, mais d'avoir. Là, je peux te dire qu'ils sont meurtris. Quand tu connais les Qataris, ils sont meurtris par rapport à l'image qu'ils donnent. Parce qu'ils sont beaucoup dans les.
Ils sont meurtris, mais c'est. Mais c'est comme le président qui achète un club de national, qui envoie des 10, 12, 15 000 euros parce que c'est des anciens joueurs de Ligue 1, de Ligue 2, et il croit qu'il va monter comme ça. Il serait tard, mais il descend en National 2. Ça arrive tous les week-ends.
Le souci,
c'est ce que tu disais, Gilbert, c'est quelle est la politique sportive qui est mise en place.
Le souci,
si tu crois que même si tu es un pays, tu vas réussir, même en 10, 15 ans, à faire de ton pays une équipe qui va avoir.
Ils ont gagné la Coupe d'Asie quand même, tu vois. Bon, voilà.
D'accord,
c'est quand même la Coupe
d'Asie. Ouais, mais ça a été l'arbre qui cachait la forêt. C'est-à-dire qu'ils sont là-dessus, ils se sont vus beaux.
Coupe d'Asie, tu as quand même le Japon, la Corée du Sud.
Ils se sont vus trop beaux là-dessus. Ils se sont dit, si on gagne la Coupe d'Asie, ça va aller tout seul. C'est ce manque d'expérience. Derrière, c'est toute la politique technique de la fédérale que tu dois remettre en cause, et notamment le sélectionneur lui-même qui est chargé de la politique d'élite, qui aurait dû mettre une autre politique, comme l'a fait et très bien fait Hervé Renard. Et on voit aujourd'hui les fruits qu'il récolte de sa politique technique, et ça passe par là.
Non mais
vas-y Kevin, mot de la fin pour toi.
J'allais dire non mais il y a un moment il y a une question de nombre et d'expérience. Il y a combien d'habitants au Qatar? C'est 300 000 c'est ça Qatari?
Il y a 300 000 Qatari. Oui.
Voilà, il y a 300 000 Qatari. Il y a autant de personnes que dans la ville de Créteil dans le Val-de-Marne. Donc il y a un moment tu peux bien travailler.
En même temps le foot à Créteil ça marche plus trop. Hein.
Non mais si tu pars de ce principe-là, dans ce cas-là, tu ne vas même pas.
Tu ne fais
rien. Le Nigeria,
c'est
à l'Orient
d'Afrique chaque année.
Mais non mais les gars. Je veux dire que
tu peux pas me dire ça à moi. Même si tu travailles bien,
tu as toujours quand même besoin d'une génération, besoin d'un travail de fond sur des années avec des générations de joueurs, etc. La Croatie, ce qu'ils font avec 4 millions d'habitants, ou l'Uruguay, pareil, avec, je crois, 2 ou 3 millions d'habitants, c'est exceptionnel. Mais c'est des cultures de foot de dizaines d'années. C'est pas en 10 ans, avec 300 000 personnes, tu peux faire ce qu'a fait une fois avec l'Islande. Mais voilà, ils ont été en quart de finale une fois, mais derrière, c'est terminé, il n'y a plus rien.
Non, bah alors dans ce cas-là, faut arrêter le football. On fait une ligue fermée
il y a un autre pays de foot qui va pas fort, c'est les Pays-Bas. On va en parler dans quelques instants. Et l'Argentine, autre pays de foot comme dirait Jérôme Rotten pour reprendre son expression célèbre, fait ce soir caca culotte avant son match de demain, qui pourrait mettre Messi à la retraite. On en parle dans la dernière demi-heure de l'After qui arrive tout de suite.
RMC After Foot Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois. On est là jusqu'à 1h du matin dans l'After, comme tous les soirs. Tout à l'heure, Nico Villas et Thibaut Jagrand seront là avec la libre antenne de l'After jusqu'à 1h. Il est 23h31 à Champs-Rousse en France et 1h31 à Doha, ici au Qatar. Kevin Diaz est là, Lionel Charbonnier également. Et Omar, supporter sénégalais, qui. D'ailleurs, tu écoutes l'After au Sénégal ?
Oui, j'écoute toujours l'After, souvent en podcast.
Excellent. On a très écouté au Sénégal.
Oui.
Je le sais, enfin, on a souvent des témoignages.
Le Sénégal est un pays de football qui aime le
football. Autre pays de football, les Pays-Bas, représenté ce soir par Johan Crochet. Johan, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Salut Johan.
Salut.
Et autre pays de football, l'Argentine, représenté par Jorge Quirino Chavez.
Salut à tous, ouais, ça va beaucoup moins bien ici, très clairement.
On va en parler dans quelques instants. Les Pays-Bas d'abord. J'imagine que le match d'aujourd'hui ne t'a pas rassuré suite à une discussion qu'on a eue après l'entrée en compétition des Néerlandais, Johan, parce que ce n'était pas extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui.
C'est clair, si je peux résumer mon impression après ce match des Pays-Bas ce soir, ça serait...
C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà.
Très bien.
C'était très très mauvais, très sincèrement et très très honnêtement ce soir aux Pays-Bas, c'est un peu massacre à la tronçonneuse. J'ai lu beaucoup de réactions évidemment de Van Basten, de Van der Vaart, de Snyder, de beaucoup de grands joueurs néerlandais et c'est un massacre parce que en fait l'équipe des Pays-Bas, et je l'avais déjà dit lors du premier match, que moi j'avais été très déçu par le jeu et je sais que Daniel et Kevin n'étaient pas trop d'accord, mais c'était catastrophique déjà contre le Sénégal et c'est encore plus catastrophique ce soir. C'est très sincèrement, j'étais en train de réfléchir, mais je crois que c'est le plus mauvais match de la sélection néerlandaise que j'ai vu depuis toujours. Bah oui, vis-à-vis de l'adversaire, parce que c'est un bon adversaire. Alors c'est toujours là.
Bah oui, ils sont tous les Équatoriens. On va en parler avec Georges un peu.
Non, mais c'est toujours la question quand un présumé gros perd des points contre un présumé plus petit. C'est à quel moment commence le mérite de la sélection plus petite, donc l'Équateur, et à quel moment commence le démérite des Pays-Bas. C'est toujours une question un peu difficile à répondre. Et moi, c'est vrai que ce soir, j'ai beaucoup d'incompréhension face à la prestation des Pays-Bas. Je suis évidemment pas le seul, notamment vis-à-vis des réactions qui arrivent des Pays-Bas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas que cette équipe soit aussi lente. Je comprends pas que les joueurs soient aussi relax en fait. Et on a l'impression que comme contre le Sénégal en fait, ils se disent ça va finir par passer parce qu'on est talentueux, ça c'est vrai, parce qu'on est plus expérimenté et pourquoi pas, parce qu'on joue dans des plus grands clubs et pourquoi pas. Et en fait ça passe pas parce que c'est pas suffisant. La lenteur dans le jeu est dramatique. Moi j'ai vu des joueurs qui marchaient avec le ballon.
Enfin, ils ont pris une leçon. Surtout qu'en plus l'Équateur, t'as une espèce de vivacité permanente, de jeu vertical qui est super agréable.
T'as une équipe dynamique et une équipe lente. Voilà. Et c'est dur de gagner un match dans ces conditions-là. Moi, quand je vois Frenkie de Jong ou Van Dijk marcher, conduire la balle en marchant sur le terrain, je comprends pas. On est sur un match de Coupe du Monde. On ne peut pas être aussi peu en mouvement, se cacher. Moi, j'ai un gros problème avec la prestation, encore une fois, de Bergwijn en première mi-temps et de Depay quand il rentre. C'est-à-dire qu'il se colle derrière les défenseurs, il bouge pas, il se cache. Ils offrent aucune seule solution. Donc, ok, les ballons ont du mal à arriver devant, mais c'est aussi parce que les joueurs devant ne font rien pour recevoir des ballons. Ils ne se mettent aucunement dans une situation pour le recevoir, pour faciliter le passage du coéquipier. Ce qui fait qu'on a eu une espèce de quand ils étaient en possession de passes à 10 totalement inutiles, sans changement de rythme, avec une énorme lenteur, sans mouvement, sans dynamisme, sans percussion, sans verticalité. Et très sincèrement, ce qui est bien, c'est qu'il y a la lucidité côté néerlandais ce soir, où Van Gaal, Van Dijk, qui j'ai entendu encore ce soir, Depay, etc., ont tous dit, Frenkie de Jong aussi, ils ont tous dit, on a mal joué. Frenkie de Jong a même dit, on en a parlé dans le vestiaire, on s'est un peu engueulé, etc. Et puis t'as Van Basten qui a dit, c'est bien beau de s'engueuler dans le vestiaire, mais moi je voudrais voir des choses sur le terrain.
Ouais, mais
il
ne
faut pas attendre d'être dans le vestiaire pour.
Van Basten, déjà.
Tu es d'accord avec, globalement, non, avec Johan?
Déjà sur les commentateurs néerlandais, moi je les connais depuis 20 ans, je les suis, Van Basten, Van der Vaart, Snyder, tous, de toute façon, tous.
Parce qu'ils t'ont fracassé après un Volendam.
Non, pas du tout. Ils parlaient pas de la D2 hollandaise pour le coup. Mais Van Basten, ça a été un des meilleurs joueurs de l'histoire du football néerlandais, mais en tant qu'entraîneur, il était très moyen, pour pas dire pire. Et les autres, c'est un peu pareil.
Mais il n'y a pas de rapport, en fait.
Il
a juste ouvert les yeux devant le match,
Van Basten, il fait que critiquer, de toute façon. Donc Van Basten, il est très gentil, d'accord, mais déjà, il veut supprimer la règle du hors-jeu, donc je pense que
c'est aucun rapport.
Toi, tu trouves que ça n'a aucun rapport. Moi, je trouve que quelqu'un qui veut avoir une analyse sur le foot, qui veut supprimer la règle du hors-jeu, je trouve que ça a un gros rapport. Mais bon, si toi, pour toi, c'est autre chose, je l'accepte.
Ah oui, c'est totalement autre chose, oui.
Maintenant, les Pays-Bas, les gars, Johan, ils sont à leur niveau, en fait. Faut arrêter de croire que les Pays-Bas, c'est bien meilleur que l'Équateur. Les Pays-Bas, ils vont jouer 10 fois contre l'Équateur. Ils vont pas gagner plus que 3-4 fois. Les Pays-Bas, déjà, si tu leur mets de l'intensité, tu leur mets de la puissance physique, pourquoi ils se font éliminer de l'Euro? Parce qu'ils se font marcher dessus par la République tchèque. Par des joueurs qui cavalent, des joueurs qui leur rentrent dedans. Et ça, ils aiment pas. Ils aiment pas. Et c'est pour ça que les joueurs, mais dans quel monde on croit que les Pays-Bas vont être champions du monde avec Davy Klaassen et Daley Blind? Davy Klaassen, il a été à Everton, il a joué 3 minutes. Donc, où il va gagner la Coupe du Monde, en fait, titulaire? C'est impossible. Donc, à partir du moment où on trouve ça normal que Davy Klaassen est titulaire dans la sélection des Pays-Bas, c'est qu'ils seront jamais champions du monde avec ça.
Parle même pas d'être champion du monde. Mais je sais que c'est l'objectif de Van Raal.
Mais c'est leur objectif.
Mais là, on analyse le match, en fait.
Oui, mais c'est leur objectif.
On parle pas d'être champion du
monde. Ils sont à leur niveau. Ils sont à leur niveau. Contre le Sénégal.
Mais non, ils sont pas du tout à leur niveau. Mais t'as vu les matchs de Ligue des Nations? T'as vu les matchs de préparation à la Coupe du Monde?
C'est la préparation. Là, on est dans le vrai. Et sur toutes les dernières compétitions, c'est leur niveau. Ils ont jamais été meilleurs. Sur la génération de paille, ils sont jamais meilleurs que ça. Ils sont capables de fulgurance, mais dès que quelqu'un leur rentre dedans, dès que le niveau s'élève, il n'y a plus personne.
Et malheureusement, ça va être compliqué. Avec un deux paille à 100%, les choses seraient un peu mieux.
Bien sûr.
Ouais, mais je pense pas quand même, parce que si c'est un deux paille à 100%, des fois, tu l'as eu à 100% et il faisait pas pour autant les appels. Je pense que, tu vois, c'est un match, c'est un, honnêtement, le déroulement du match, je l'avais raconté. Écoute les podcasts, et je l'avais raconté ce matin. Et j'avais très peur de cette équipe qui, parfois, il me semble que Johan l'a dit, est suffisante. Pour moi, c'était une bonne entrée en matière, ce premier match. C'était pas si mal que ça. Mais par contre, derrière, je m'attendais. Et quand t'avais vu l'Équateur et que t'avais vu aussi les problèmes de vitesse, et Kevin en a parlé, je suis entièrement d'accord, les problèmes de vitesse, que ce soit derrière ou dans le milieu, quand tu rencontres l'Équateur, tu te dis ils vont être en danger. Et si en plus il y a de la suffisance, tu vois, t'es pas loin de perdre le match.
De toute façon, les Pays-Bas, Lionel, ils ont eu, je crois que c'est 8 joueurs ou 9 joueurs de l'Ajax. Ils ont exactement les mêmes problèmes.
Mais c'est les mêmes problèmes.
Ils ont les mêmes problèmes. C'est les mêmes joueurs de toute façon. Donc c'est les mêmes problèmes. À partir du moment où le niveau s'élève, à part en 2018 parce qu'ils avaient une génération exceptionnelle, voilà. Mais à partir du moment où ces joueurs sont partis et que le niveau s'élève depuis, l'Ajax ça passe pas et les Pays-Bas ça passe pas et ça passera pas non plus parce que.
Johan, c'est pas du tout les mêmes problèmes entre les Pays-Bas et l'Ajax.
Moi, je trouve que c'est les mêmes problèmes.
Non, pas les mêmes, parce que l'Ajax est vachement faible.
Moi, je suis content parce que finalement, Johan et Kevin sont à une mini photographie de ce qu'est les Pays-Bas, c'est-à-dire des mecs jamais d'accord.
Non, mais c'est pas ça. Mais moi, j'ai du mal à entendre le discours. Les Pays-Bas gagneraient 3 matchs contre l'Équateur.
Johan, derrière, ils ont quand même des problèmes.
44e nation, les gars.
Mais oui,
mais ça veut pas dire forcément tout
mais en Europe,
le ranking FIFA. Mais va pas falloir me faire croire que l'Équateur, ça gagne la Copa América tous les week-ends.
Non, mais ils ont des capacités.
Ils ont des capacités qui ne conviennent pas à la sélection des Pays-Bas. C'est ça que tu veux pas entendre.
Les Pays-Bas, ils ont pas de capacité pour déséquilibrer un adversaire.
Derrière, je les trouve très
lents. Du mouvement et de la vitesse dans la circulation de balle. Hein.
Oui, d'accord.
Le pressing fort, comment tu le contres, Kevin, toi qui passes tes diplômes? Comment tu contres un pressing fort ou des joueurs dynamiques qui viennent de prendre un duel?
Il faut qu'on arrête parce qu'on n'a plus le temps. De toute façon, les Pays-Bas sont bien, tout de même bien positionnés.
J'espère qu'ils vont se qualifier. Normalement,
ils vont jouer le Qatar qui est nul. Donc,
ça va le faire.
Ils vont quand même se qualifier.
Après, il peut trouver le déclic. Mais moi, tout ce que je dis. Tu peux sortir d'un pressing, tu peux avoir beaucoup plus de mouvement, tu peux jouer entre les lignes. Je sais tout ce qu'ils essaient de faire, je le sais, je l'ai fait pendant 8 ans. Mais je te le dis, pour moi, ils manquent de qualité individuelle à des postes clés, notamment le poste de latéral gauche,
et
notamment le poste de, disons, 8-10. C'est un joueur comme Taylor qui pourrait peut-être jouer dans les prochaines années, mais il n'est pas encore vraiment prêt.
Un mot sur l'Équateur, Georges, s'il te plaît. Je remercie Johan Crochet. Johan, bonne soirée, à très vite.
Ciao.
Un mot sur l'Équateur, Georges. T'es étonné, toi, de la prestation des Équatoriens? Franchement, c'est une des équipes bluffantes pour l'instant de la Coupe du Monde.
Moi, je suis pas plus étonné que ça. On se disait que ça pouvait être ici une équipe qui pouvait être la révélation de la Coupe du Monde. En plus, en commençant avec cette rencontre face au Qatar, ça pouvait bien les lancer. Mais il y a pas mal de joueurs qui font partie de la génération qui a terminé troisième du Mondial U20 en 2019. Donc, tu dis que c'était quand même il y a pas très longtemps, donc il y avait une bonne génération. Et surtout, c'est un football qui est très structuré, qui monte en puissance depuis plusieurs années maintenant en Amérique latine, notamment avec cette équipe Independiente del Valle dans la banlieue de Quito, qui depuis plusieurs années maintenant, grâce à l'argent d'un des hommes les plus riches d'Équateur, grâce à l'aide notamment de l'académie Aspire du Qatar, s'est structuré et sort de plus en plus de joueurs, et on les voit aller dans les phases finales en Libertadores, chez les juniors, chez les grands aussi, ils ont fait une finale, ils ont gagné 2 fois la Copa Sudamericana. Donc l'Équateur, ça fait quelques années qu'ils sont là en Amérique latine, donc ils ont des joueurs qui jouent pratiquement Team en Europe, hein, des Oustoupignan, des Caicedo. C'est une équipe qui est séduisante, qui a fait match nul contre le Brésil et contre l'Argentine lors des éliminatoires. Ils n'ont pas volé leur place du tout pour la Coupe du Monde. Donc, emmené en plus par Alfaro, l'entraîneur argentin qui était à Boca Junior avant. Donc, on sait que c'est un leader d'homme à fond. Écoute, il y a tout un pays qui est derrière. Il y a 18 millions d'Équateurins qui sont un bloc total ce soir et qui se disent que y a totalement moyen d'aller chercher la qualif. Et pourquoi pas d'aller égaler eh bien, la meilleure perf de l'Équateur, au moins, c'était en 2006, quand ils avaient fait huitième de finale face à l'Angleterre. Donc, moi, je pense que ça peut être une des bonnes surprises, l'Équateur. Pourquoi pas aller même plus loin quand on voit l'Uruguay et l'Argentine.
Omar, toi qui es supporter sénégalais, ça fait peur, non?
Non, ça ne fait pas peur. C'est la réalité. Ils sont bons et depuis le début de la compétition, ils confirment leur bonne forme. Mais je suis sûr et certain que le Sénégal va se qualifier. Mais pour revenir juste sur les Pays-Bas, moi, je pense que cette génération manque cruellement de talent, surtout devant, par rapport à ses devanciers.
Alors, ouvrons maintenant le dossier argentin. Parce que demain, ça pourrait être le drame absolu. Peut-être, on le souhaite pas, hein, évidemment. Peut-être le dernier match de Messi avec l'Argentine, si jamais ça tourne mal contre le Mexique, Georges.
C'est une finale. Ici, c'est comme ça que toute l'Argentine présente. Alors le discours officiel en façade, c'est de dire « Todos juntos, on est tous ensemble et on est derrière cette équipe, on suit le discours de Messi, de Scaloni et de Lautaro Martinez aujourd'hui, c'est-à-dire le match de l'Arabie Saoudite est derrière nous et maintenant on va vous montrer qu'on n'a pas oublié du jour au lendemain ce qui nous a permis de gagner la Copa América et d'enchaîner 36 matchs sans défaite. » Et voilà, le discours de Scaloni, c'est « Faites-nous confiance, cette équipe va laisser jusqu'à la dernière goutte de sueur sur le terrain demain et elle ne va pas vous abandonner. » Il y a 70% des Argentins qui pensent que l'Argentine va aller au second tour. C'était un sondage du quotidien Olé cette semaine. Moi, franchement, au plus profond du sentiment des Argentins, je peux vous dire, dans les rues de Buenos Aires, on sent quand même qu'il y a une anxiété totale autour de ce match. Ouais. Il y a une anxiété totale autour de ce match.
Non, parce que justement, le premier match a un peu fragilisé.
Ouais, bien sûr, mais le premier match a fragilisé toutes les certitudes qu'avaient les Argentins. Et oui, le Mexique en plus revanchard, le Mexique qui a été éliminé deux fois par l'Argentine en 2006 et en 2010 en huitième de finale. Le Mexique avec un entraîneur argentin, Tata Martino, sélectionneur de l'Albicéleste, avec un attaquant, Funes Mori, qui est un naturalisé mexicain, il est né en Argentine. Donc il y a tout un scénario qui sent pas très bon, où on se dit que les Mexicains vont vouloir jouer le match de leur vie pour sortir l'Argentine. Mais voilà, le discours officiel c'est « ayons confiance », mais quand même derrière tout ça, il y a quand même une bonne partie de l'Argentine, moi je le sens, dans les questions des journalistes, quand tu parles avec les gens dans la rue, qui se prépare quand même aussi à la catastrophe demain. Une partie qui se prépare à la catastrophe demain.
Kevin Lionel,
s'ils perdent, ils sont dehors. Hein. S'ils font match nul, ils sont encore un peu en lice, mais ils ont peur de Storm.
Kevin Lionel, vous en dites quoi?
Franchement, moi j'ai envie que l'Argentine se qualifie, donc je ne suis pas vraiment objectif. J'avais envie quand même de voir ce que Messi allait faire dans la phase finale. Donc j'espère vraiment qu'ils ne vont pas faire d'erreur. Et puis surtout, j'oublie pas, moi vraiment, c'est le genre de match, je l'ai dit la dernière fois, Gilbert, moi j'oublie pas que l'Argentine menait 1-0, qu'il y a un but qui est hors jeu d'une épaule, même pas d'une manche de 5 cm. Et donc s'il y a 2-0, ils mettent une valise à cette équipe. Donc après, ils ont pas été bons sur la deuxième mi-temps. Voilà, ce niveau-là, ça pardonne pas. Mais même comme ça, ils auraient largement pu au moins égaliser. Maintenant, il y avait une équipe en état de grâce. On le voit tous les week-ends, notamment en coupe. Mais moi, je pense quand même qu'ils ont quand même une belle équipe. Ils ont des bons joueurs. C'est pas pour rien qu'ils ont été aussi longtemps
invaincus. Il y aura beaucoup de
changements. Par contre, est-ce qu'ils vont réussir à gérer la pression? Ça, c'est Georges qui peut me le dire. Ah. Mais je connais un peu moins cette équipe.
Ça va être quoi les changements, Georges? T'as une idée?
Scaloni a dit tout à l'heure en conférence de presse, vous inquiétez pas, on va pas changer notre philosophie de jeu, notre façon de faire, parce que l'idée c'est de justement montrer qu'on n'est pas touché par le premier match. Et là en fait on apprend ce soir via tous les médias argentins que Scaloni va faire au moins 5 changements a priori. Ouh, ah oui. Sur le 11 qui a débuté face à l'Arabie Saoudite. Sur le premier match, en fait les critiques qu'il y a eu surtout ici, et je pense qu'a vu Scaloni et son staff, c'était le manque de rythme, le manque d'agressivité et des joueurs qui n'ont pas su du tout gérer justement émotionnellement ce match-là. Donc les changements, les latéraux a priori, exit Tagliafico, exit Molina, Acuña et Montiel vont rentrer, Molina sort et Montiel rentre. Romero, qui est le défenseur au Tottenham, qui revenait de blessure, qui était en manque de rythme, qui est fautif sur le deuxième but, sort, entrée de Lisandro Martinez, qui est en forme avec Manchester United, c'est l'un des hommes en forme du côté de l'Argentine. Dans le milieu de terrain, a priori, on se dirige vers un 4-3-3. Paredes, c'est la surprise du soir, a priori, pourrait sortir, alors c'est un homme clé du milieu de terrain depuis toujours, remplacé par Guido Rodriguez du Betis, qui était son remplacement habituel. Ensuite, Papu Gomez pourrait sortir pour Enzo Fernandez ou McAllister, et devant Di Maria, Lautaro et Messi. Donc ça fait 5 changements en tout. Et en fait, Scaloni veut mettre les hommes qui semblent pour lui en forme, qui peuvent mettre l'intensité, qui peuvent apporter quelque chose en plus. Il n'a pas hésité à couper à la tête de cadres comme Paredes, comme Romero, parce qu'il sent qu'ils ne sont pas à 100%.
Paredes, il l'avait déjà sorti à l'heure de jeu, pratiquement.
Ouais. Exactement. Il avait remplacé pour laisser entrer Enzo Fernandez de Benfica, mais Paredes, en fait, il a pas tant de jeu à la Juve. Il était blessé dernièrement, donc il n'arrive pas du tout avec une bonne préparation. C'est la même chose pour Romero qui était blessé. Donc en fait, Scaloni décide de mettre ceux qui vont lui donner le maximum de garanties, quitte à enlever des cadres de
et plus dans le rythme.
Merci Georges, merci beaucoup. On se retrouve demain, évidemment.
Demain, ça va être un jour.
Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, va falloir clair. Être là, mon vieux. Allez, à demain.
La pression.
Bonne journée à Buenos Aires.
Salut, Jean.
Tiens, puisqu'on parlait de l'Arabie Saoudite, écoutez la fameuse causerie d'Hervé Renard qui a fait beaucoup parler aujourd'hui. Certains peut-être l'ont pas vu sur rmcsport.fr. Extrait. Même si vous avez un niveau d'anglais comme celui de Kevin Diaz, vous allez tout comprendre. C'est pas traduit, c'est de l'anglais d'Hervé Renard, accent d'Aix-les-Bains.
This is a pressing, and another pressing doesn't mean you will go high. Messi, last time, Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense.
Tu vas avec Messi,
tu vas to Ali, tu vas to Martin in the middle. Take your phone, you can make a picture with him if you want.
يعني
يا اسمه طول يا راجل متتصور معاه يا ريت فوتوفز ديفنس يو
عليه.
Voilà, donc avec à chaque fois la traduction.
C'est la difficulté du traducteur.
Vous savez ce qui est génial, c'est What, Messi, you want to take a picture?
franchement, j'ai l'impression de t'entendre quand tu parles anglais, Gilbert.
C'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, Hervé Renard, il dit ouais, quand même, quand je me réentends et tout. Oh, c'est un peu gênant, oui. Mais bon, non, parce que
arrête,
ça a marché.
Arrête,
parce que
ça, c'était à la mi-temps. Il a fait le buzz, là. C'est normal, d'ailleurs. Ce speech, il va rester. Hein,
mais tu sais
pas.
Que c'est quelque chose, ça, que j'ai vécu, et l'importance du traducteur, parce que lui, il est dans la
tonation. Il a la même intensité dans la traduction.
Mais ouais, parce que si t'as un traducteur, que lui, il est énervé, mais qu'après, il traduit un truc complètement hallucinant, où il n'est pas dans le rythme, dans l'intensité et tout, le message, il passe pas pareil.
Ouais, je peux te dire que l'image d'Hervé Renard, tu vois qu'il est très énervé, quand même.
Ouais, mais je l'ai vécu, moi, en Indonésie, parce que j'avais pas tous les mots pour les Indonésiens. Et mon traducteur, il était mou. Et à un moment donné, j'ai dit, mais non. Puis je voyais que mon message, il passait pas très bien. Et j'ai dit, non. Tu parles de la même manière que moi. C'est hyper important, parce que sinon, les mots ne sont plus captés pareil. Même si ils me voient et tout, les joueurs, enfin, ils voient l'entraîneur. Le message qui passe, qui leur arrive aux oreilles, l'intensité n'est pas la même. C'est franchement bizarre. Et là, c'est un très bon interprète.
L'Arabie Saoudite qui joue demain la Pologne dans son match. Anthony a gagné le maillot de l'Angleterre ce soir dans notre jeu foot corner. On le félicite. Bravo Anthony.
Gagnez votre maillot sur RMC avec Foot Corner. Jusqu'à 70% de réduction sur les plus grandes marques de sport, c'est la Black Week. Jusqu'au 28 novembre sur footcorner.com.
Dans un instant, le reste de l'actu du jour, on va notamment parler de Cristiano Ronaldo et de l'Arabie Saoudite qui veut racheter les clubs. Je vous dis pas le tout. A tout de suite.
RMC After Foot. Intégrale Coupe du Monde.